J'adore passer du temps avec elles, qu'elles sont une très belle école de la vie. Et avec elles, on n'a pas la même pudeur qu'on a avec nos mamans.
C'est sûr.
Je suis très proche comme ça de mes nièces, et j'essaye de l'être avec ma fille en me disant, mais est-ce que je pourrais un jour parler de... Ou avec mes garçons, par exemple, en leur disant, ouais, mais les garçons, c'est important, le cuni.
Hello la communauté, ici Malik de Chosimenta. Comme vous le savez maintenant, deux fois par mois, nous recevons des personnes qui nous inspirent et qui nous motivent afin de partager un moment privilégié avec eux. Un échange sur leur parcours professionnel, universitaire, les raisons de leur choix, les gros échecs, mais aussi les grandes réussites. Et nous avons plaisir à mettre cet échange à votre disposition. L'objectif est de vous donner un accès à une communauté de mentors virtuels pour vous aider à mieux comprendre les mondes professionnels et surtout à vous accompagner dans la prise de décisions professionnelles importantes. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Shina Donia Reina, coach en image personnelle et consultante en communication d'entreprise. Shina est une guerrière, littéralement. Elle a eu plusieurs vies, regorge de multiples potentialités. Elle a une enfance au Gabon, elle a étudié à Toulouse, puis à New York, à l'EFAP, avant de s'installer au Gabon, en rebelote, pour y travailler. Shina nous parle de son expérience de RIPAT, de son installation en France, de son choix de faire une école de coach en images, de ses multiples projets dans le cinéma et surtout de son livre. C'est Maman qui commande, dont la seconde édition est disponible dans les FNAC et sur le site internet de Shina. Ce livre, une bande dessinée, a été l'objet principal de notre échange. C'est une satire d'elle-même, une mère active de 4 enfants dans Paris bruyant et mouvementé. Vous entendrez énormément d'anecdotes de sa vie de famille qui font tout le piment de cet épisode. Vous allez écouter un épisode très détendu, drôle, plein d'anecdotes et de conseils. Je vous souhaite une excellente écoute. N'oubliez pas de nous noter 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et surtout de nous soutenir sur notre lien Tipeee. Excellente écoute à vous, à très vite. Salut Shina. Je suis très
Bonjour
content
Malik.
De t'avoir aujourd'hui sur Choose Your Mentor. On va parler de tout plein de choses. Moi, ça fait un moment que je pensais t'inviter et finalement, ça s'est fait par la Providence à l'occasion de la sortie de ton livre. Je vais te laisser te présenter si
tout
tu veux
fait.
Bien, quand même, même si pas mal de personnes te connaîtront déjà, mais je te laisse te présenter quand même ce que tu veux nous dire de toi et après, on va dérouler le cours de l'interview.
Écoute, les seules personnes que le monde entier connaît, d'après ma grand-mère, hein, c'est Michael Jackson, Jésus et Feu Omar Bongo, dont elle était très fan. Donc oui, je vais me présenter avec plaisir. Je m'appelle Shina Donia, je suis gabonaise, entrepreneur digital. Je suis coach en image spécialisée dans l'accompagnement d'étudiants, de salariés, de demandeurs d'emploi, de chefs d'entreprise ou porteurs de projets qui souhaitent soigner leur image pour booster leur carrière. Quand je ne fais pas ça, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je partage ma vie de maman et de chef d'entreprise, une aventure dans laquelle je me suis lancée il y a 16-17 ans maintenant. Et quand je ne fais pas ça, j'écris des livres. Donc, mon tout premier est sorti en juillet dernier. C'est une bande dessinée intitulée « C'est maman qui commande » et elle raconte donc les péripéties de ma vie de maman qui élève ses enfants à Paris et qui n'a pas besoin de supermanie pour leur appeler qui commande dans la maison, c'est-à-dire maman.
Marche. Merci beaucoup pour cette brève introduction, Shina. Alors, parce que personnellement, moi, je te connais, donc je suis sur les réseaux sociaux. Donc, je vois ce que tu fais aujourd'hui, mais j'ai bien envie de comprendre tout le cheminement, comment ça s'est passé. Du coup, une des questions que j'aime beaucoup poser, c'est de savoir comment tu grandis et qu'est-ce que l'enfant que tu as eu, la petite fille que tu as été, pardon, dit de la personne que tu es devenue. En fait, quel est l'impact de ton enfance, de comment tu as grandi sur la personne que tu es devenue aujourd'hui?
Oh là là, une très jolie question. C'est d'autant plus que j'aime beaucoup dire à mes clientes, ce sont essentiellement des femmes, de ne pas oublier la petite fille de 8 ans qu'elles étaient en même temps qu'elles continuent ce très beau voyage qui est la vie, peu importe les hauts et les bas. Et j'aime toujours regarder, non pas en arrière, mais juste à mes pieds. Et je vois toujours la petite Shina de 8 ans, d'ailleurs une très jolie photo de moi à cet âge-là. Et je veille à lui tenir la main. Et cette petite fille était, elle était certes timide, donc je suis devenue l'opposé total aujourd'hui, mais elle avait bon cœur, elle voulait aider les gens, elle rêvait d'être médecin sans frontières, pas parce qu'elle avait les facultés d'être médecin, les capacités d'être médecin, mais parce qu'elle était amoureuse de Bernard Kouchner, qui passait aux infos, à l'époque du conflit en Somalie, il me semble, et je le trouvais tellement beau comme docteur, donc j'ai fait une fixette sur lui, et je me disais que c'était le seul moyen de le rencontrer, de travailler avec lui un jour, et puis évidemment, en seconde, quand je n'ai pas pu aller en série S, j'ai abandonné et Bernard Kouchner et l'idée d'être médecin, mais j'ai toujours voulu aider les gens. Je viens d'une famille de pasteurs. Mes grands-parents, arrière-grands-parents étaient des pasteurs protestants. Mon arrière-grand-père est un des cofondateurs de la mission protestante de Ngomo dans la région des Lacs au Gabon. Donc, j'ai vraiment baigné dans l'église. Le nom de jeune fille qu'on m'a donné, c'est celui de la femme du président de l'église évangélique du Gabon, donc la plus haute autorité de l'église protestante, qui était également ma grand-tante. Donc j'ai vraiment grandi avec cette énorme, cette obligation en fait de toujours avancer dans la vie en tenant compte de la foi, afin que quoi qu'il nous arrive en fait, on se souvienne qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus de nous. Ce quelque chose de plus grand avant d'arriver au-dessus, évidemment c'est ma famille, le clan dans lequel je suis née, je suis fan. Donc, les gens au Gabon ou au Cameroun, ou en Guinée équatoriale d'ailleurs, et même au Congo, il y a des fans, savent à quel point les fans sont très fiers de leur origine. On a un petit côté corse, comme ça, où on s'enorgueillit d'être fan. Et on nous apprend la fierté d'être nous-mêmes. On nous apprend un principe qu'on appelle le bangam, que j'ai bien enseigné à mes enfants. C'est le fait de défendre son frère ou sa sœur fan, pas forcément de sang, quoi qu'il advienne. Même s'il a tort dehors, le bangam veut qu'on prenne sa part, comme on dit au pays. Ensuite, à la maison, on lui règle les comptes. Mais c'est de toujours prendre position pour les siens, même s'il a tort du grand frère du tort de la mort. Et ça, je l'enseigne à mes enfants. Donc, mes enfants, ils sont nés au Gabon, mais ils vivent ici depuis bientôt 10 ans. Ils savent qu'ils sont, d'où ils viennent. Donc, que ce sont mes enfants, les enfants de leur père, les enfants. Ils savent sur 6 générations qui sont leurs grands-parents, aïeuls, etc. Ils connaissent leur clan, leur ethnie. Ils savent ce qui est permis, n'est pas permis chez nous. Évidemment, ils passent un petit peu entre les mailles du filet parce qu'on a moins cette grande famille pour s'assurer que, pas qu'on file droit, mais qu'on marche selon ces principes-là qui sont vraiment dits et enseignés de manière orale. Mais j'enseigne à mes enfants la fierté de qui ils sont. Certains appellent ça d'avoir confiance en soi ou autre chose, mais vraiment la fierté de qui ils sont, de leur apparence, de leur origine, leur manière de rire, de parler, la fierté de leur choix, la fierté de leurs parents, évidemment, si un jour mes enfants ont de moi, oh là, qu'est-ce que je veux leur faire. Et c'est déjà arrivé au passage, ma fille m'a totalement ignorée quand j'étais allée prendre son bulletin de 6e, parce que comme beaucoup de personnes à la peau noire, donc en hiver, nos peaux ont tendance à desquamer un petit peu. Et visiblement, j'avais pas mis assez de crème sur les pieds et je pense que j'avais une paire de mocassins, mais mes chevilles, le début du mollet étaient à l'air libre. Et ma fille m'envoyait des textos, elle s'est assise loin de moi dans le coin, elle me dit « Maman, tu as vu tes pieds, t'as même pas mis la crème. Bon, ne me parle pas comme ça, on ne saura pas que tu es ma mère. » Et moi, je lui répondais « Ok, pas de souci. » Et elle me disait, je te fais signe que le professeur de maths, qui est le prof principal, monsieur Adam, dès qu'il nous appelle. Et dès qu'il a appelé, mais comme une bonne maman qui vient, je dis, pas le mal, on y va, ma chérie, mais elle savait pas où se mettre. Et je lui disais, moi, j'aurais jamais honte de toi, ma puce, donc tu m'excuseras. Pour mes pieds gris, mais c'était surtout lui apprendre une leçon, même si mes cheveux sont comme moi, même si quoi. Tu assumes ta maman jusqu'au bout.
Et du coup, pour avant d'arriver sur ta partie créative, donc le livre et ce que tu fais aujourd'hui, moi je veux bien comprendre un peu ton parcours. Tu grandis, du coup une partie au Gabon, une partie en France. Tu peux revenir un peu sur ça, sur comment tu grandis pour que tout le monde te découvre un peu plus. Qu'est-ce qu'on connaît déjà ? C'est-à-dire que t'as grandi au Gabon, une partie, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, je suis née au Gabon, j'ai fait mes études primaires et secondaires. Après mon bac, je suis venue à Toulouse pour faire un BTS en communication. Ensuite, je suis partie à New York pendant 2 ans faire maîtrise, à l'époque on disait maîtrise, en communication également, et j'ai choisi une spécialisation qui était donc, c'était dans le cadre d'un programme d'échange entre les FAP, l'École française des attachés de presse, et cette université new-yorkaise, NYIT, et donc notre major c'était public relations. Et en même temps, on avait des cours un petit peu à la carte, comme ça, au menu. Il y avait des cours de cinéma, production audiovisuelle. Et du coup, je les ai pris parce que ça m'intéressait beaucoup. Et donc, je suis sortie avec mon diplôme de l'EFAP, mais également ce diplôme en plus de l'université américaine, qui était donc en production audiovisuelle et cinéma. À 24 ans, je suis rentrée au Gabon pour changer le monde, révolutionner tout. Et non, en fait, ça ne se passe pas toujours comme ça.
Est-ce que tu savais exactement ce que tu faisais en termes de carrière, ou ça a été, enfin, est-ce que c'est des parents, est-ce que ça a été la providence? Comment tu as choisi la com et du coup la production audiovisuelle?
Alors, comme je t'ai dit, je voulais être médecin sans frontières. Non, ça ne va pas que médecin, c'est médecin pour les mauvaises raisons déjà. Donc en seconde, j'ai dû changer d'avis et me dire, oulala, qu'est-ce que je vais faire? Et comme j'ai fait une seconde économie, je me voyais aller à la fac d'éco, à la fac d'économie. Mais je me disais, je vais faire quoi? Tout ce que je connaissais qui était lié à ça, c'était ma prof d'éco ou mes professeurs d'économie de la seconde en terminale. Donc, on avait une ouverture au monde et au métier qui était quand même très restreinte. On n'avait pas d'encadrement, on n'avait pas... Et puis, je venais pas d'une famille où on a des gens qui ont fait des carrières dans des métiers géniaux, brillants. Donc, la plupart de mes oncles et tantes étaient enseignants. Et je savais que je voulais surtout pas être ça. Donc, j'avais peu de connaissances de ce qui m'était possible de faire. J'ai choisi la com, il me semble, parce que quelqu'un m'a dit, ou un de mes profs, que je parle beaucoup. Moi, j'ai confondu ça avec la communication, ça n'a rien à voir. Et puis, en fait, parce que je voulais faire relations internationales, toujours moi avec des noms qui ne veulent rien dire. Et là encore, parce que j'avais entendu une personne dire, oui, tu devrais faire relations internationales. Sauf que quand je cherchais une école en France, je n'arrivais pas à en trouver qui fasse relations internationales. Et encore à l'époque, je parle de 1998, on n'avait pas Internet, on n'avait pas d'ordinateur. Donc, j'avais trouvé un job d'été à 18 ans comme hôtesse de l'air de Air Gabon. Et à chaque voyage que je faisais à Paris, je passais des entretiens dans des écoles en me disant, il faut absolument que je trouve une inscription. Et donc, l'école que j'ai trouvée à l'époque, d'abord à Paris, l'ISEG, m'avait donc offert une place en première année de BTS. Et le temps que j'ai mon attestation de bourse, qui arrivait très, très tard, ils n'avaient plus de place. Ils m'ont proposé Toulouse. Okay. J'ai dit banco, je suis allée à Toulouse. Mais aucune connaissance vraiment de la com, de tous ces métiers. Et Dieu merci, j'ai choisi de faire carrière là-dedans parce que c'est un métier qui me correspond à bien des égards. Au gré de ma formation, de mes stages, j'ai pu faire de l'événementiel, j'ai pu faire des RP, j'ai pu faire de la com pure en agence, un peu de créa ici, de l'audiovisuel comme j'ai dit. Et ça me, aujourd'hui le digital, depuis bientôt 10 ans, ça me permet d'être comme ça un petit peu 360 degrés. Et j'attends toujours de savoir quelles sont les nouveautés dans ce domaine pour me tenir à jour autant que possible. Mais j'ai fait le bon choix. Et si je devais avoir fait une autre carrière, je le réalise avec le recul, ça aurait été du droit. Je pense que j'aurais été une très, très bonne avocate. Mais parce que je prends les choses à cœur. J'aurais pas fait du droit des affaires autre chose. Ça aurait été du droit de la famille... même pas du droit pénal, parce que sinon j'allais aller insulter les papas, les mamans des gens là-bas, au tribunal et tout. Ouais. Et j'allais être trop jugée partie. Mais je pense que le droit de la famille, oui, parce qu'encore une fois, je viens d'une grande famille où les affaires de famille, c'est nos affaires, c'est nos palabres. En tout cas, mes clients allaient être sûrs que leurs problèmes sont mes problèmes. Et j'aurais certainement eu une spécialisation sur le droit des femmes et à défendre des femmes en Afrique, sur des questions de divorce, sur des questions de garde d'enfants qui leur sont souvent refusé au profit du mari parce que on suppose qu'il a plus de moyens et parce que les codes civils sont calqués sur ceux de Napoléon à l'époque dans beaucoup de nos pays francophones en Afrique. J'aurais combattu sur les histoires de viol, d'inceste, de polygamie pour les femmes qui se sont retrouvées flouées dans des situations où elles n'avaient pas signé pour ça. Ouais, non, j'aurais été une avocate des femmes comme petit pays
mais,
au Cameroun.
Je dis ça en passant, mais c'est pas tard, hein. Il y a des carrières sur le tard comme ça.
Ouais, mais j'ai pas la...
Ouais, c'est vrai.
Non, mais je peux me rendre utile autrement. Aujourd'hui, j'ai pu créer une communauté d'hommes et de femmes en ligne
c'est
avec
vrai.
Laquelle on peut discuter de ces choses, qu'on peut mobiliser parfois sur certaines causes. Je peux venir en aide à des associations qui, ou des avocats
c'est
d'ailleurs,
vrai.
Qui sont vraiment sur le terrain à se battre pour ces choses-là. Mais non, une flemme totale d'aller faire encore 5 années dedans.
C'est clair. J'avais une question sur ce que tu as dit, ça m'est sorti de la tête. Bon, c'est pas grave, on va, ça va certainement revenir. Du coup, Toulouse, après Toulouse, tu choisis de continuer en communication, donc tu pars à New York en échange.
À New York.
Ça se passe comment? Est-ce que tu kiffes les États-Unis? Est-ce que moyen et puis du coup, enfin ouais, comment ça se passe quoi?
En amour, j'étais en amour. Je me suis dit pendant longtemps, la seule ville au monde où je pourrais vivre à part chez moi, à Libreville, c'est New York. Et je me souviens quand j'ai pris, quand on a atterri à New York, c'était un vol Air France et ils sont en partenariat avec Delta Airlines dans le cadre de SkyTeam, l'alliance SkyTeam, il me semble. Et le pilote français, donc c'était la dernière fois que j'entendais du français avant longtemps. Hein. J'étais assez nostalgique et puis je me disais d'habitude, je quittais mes parents pour aller à Toulouse. C'est loin, mais bon. Mais là, c'est encore plus loin. C'est un autre pays, c'est un autre continent. On ne parle pas le français. Et le pilote avait dit, nous souhaitait bienvenue, nous venons d'atterrir à l'aéroport, je crois que c'était la Guardia, le commandant tel, vous souhaite tout ça, la météo, blabla. Et il disait bienvenue à New York, s'il y a quelque chose que vous cherchez, que vous ne trouvez pas dans cette ville, c'est que cette chose n'existe pas dans le monde. Je n'ai jamais oublié ces mots. Et c'était pour moi le meilleur accueil qui soit, celui qui disait que le champ des possibles est infini ici. Et en effet, c'était le cas. Je n'ai jamais expérimenté le racisme à New York comme je l'ai expérimenté en France quand j'étais étudiante à la recherche d'un appartement ou à vouloir entrer à des soirées dans des lieux qui étaient un peu plus blancs que, voilà, inclusifs, on va dire ça comme ça. Tout était possible. Je n'ai jamais été au contact de personnes venant de partout dans le monde. Dans ma classe, j'avais des professeurs japonais, mais d'origine, mais américains, qui nous donnaient des cours sur le cinéma français. Ils parlaient des frères Lumière. Ils n'arrivaient pas à bien dire Lumière. À côté de moi, il y avait une Indienne, une Zaïroise, mais il y avait le monde entier était dans ma classe, dans mon université. Je marchais dans la rue, mais j'étais en pamoison tout le temps. New York est tellement plus que, c'est tellement ce qu'on voit déjà dans les films de Noël et tout ça, mais une ville magique. En France, j'étais toujours la dernière, mais je jure devant Dieu, comme mon Dieu pays, la dernière à trouver mon stage. À New York, j'étais une des premières, parce que ma différence, en fait, plaisait énormément aux recruteurs. Quand j'arrivais dans une entreprise pour un entretien d'embauche, et ils voient ces jeunes filles noires, et bon, ils vont te demander « Where are you from ?» parce qu'à l'accent, ils sentent bien que je ne suis pas d'ici. Et au début, je disais « I'm from Gabon », donc bon, ils levaient les sourcils, genre hein, « quoi, où ?» Et j'étais en mode « Next to Congo ?» Et au bout de deux fois, j'ai dit « Bon, ça sert à rien. » Ils disaient « I'm from France. »« Oh my God, vous parlez français ?» Et moi, tout de suite, alors là, dans mon français le plus parisien, « Ah oui, bien sûr, tout à fait. » Alors, ce que New York m'a appris, c'est que le champ des possibles est infini pour tout le monde, que le rêve américain existe, à condition de vouloir travailler, qu'on donne sa chance à quasiment tout le monde. C'est un des pays, donc les États-Unis, où on peut vivre sans papier longtemps, sans se faire embêter tant qu'on ne
va pas en prison.
qu'on ne fait rien qui soit hors la loi en plus de ça. Perso, j'avais une bourse étudiante dont j'avais mes papiers. Mais New York m'a permis de revenir donc ensuite en Afrique avec un sentiment de... d'être allé prendre le meilleur de ce que mes études pouvaient me donner dans cette double culture à la fois anglophone et francophone. Et je pense que si je m'étais limitée uniquement à des études en France, j'aurais une vision du monde qui est très franco-française et assez fermée. Et que d'ouverture d'esprit, que d'ouverture sur le monde. Quand on se promène dans New York, hein, you never know who you're gonna meet. Ça aussi, c'est une phrase typique des New-Yorkais. On peut être en train de marcher dans la rue au bout d'un immeuble. On croise Robert De Niro qui promène son chien, par exemple. Et ce que les New-Yorkais ont de génial, ils ne dérangent pas les gens. Ils vont pas dire « Oh my God, Robert De Niro !» On se regarde juste et puis on sait que voilà, il sait qu'on se sait. Et puis on passe, on les laisse tranquilles. Mais c'est une ville magique. Et très honnêtement, s'il y a un endroit dans le monde où je pourrais vivre, c'est New York. Sachant que je suis arrivée aussi juste après les attentats du 11 septembre. Donc, il y avait une forme de solennité dans la ville. Les gens étaient assez solidaires les uns des autres et angoissés aussi. Moi, je ne l'ai pas vécu. J'étais au Gabon quand ça s'est passé. Mais j'étais comme quand on va rendre visite à, je sais pas, un ami qui a perdu son père. J'étais vraiment assez humble par rapport à ça. Et quand je suis allée visiter le Ground Zero, là, c'était quand même une expérience assez bouleversante, que je vais peut-être passer pour Garba la sorcière ou quoi. Mais j'avais l'impression d'entendre les hurlements des gens qui étaient morts là, tellement ce vide était
parce que à l'époque c'était incroyable, il y avait même pas en fait encore le monument
et j'affectionne toujours autant New York plus de 15 ans après avoir quitté cette ville. J'ai eu l'occasion d'y retourner, j'espère y emmener mes enfants sur les traces de là où j'ai étudié, là où j'ai vécu, mes restos préférés, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand mes enfants me disent ils veulent aller vivre à tel ou tel endroit, faire ceci, même ma dernière qui est ma seule fille me dit qu'elle veut aller étudier en Chine et épouser un chinois, bon mon cœur est un peu fendu, mais mais je suis pas là pour la freiner. Je dis bien sûr ma chérie, maman viendra te voir en Chine. Et les gens, oui, hein, bien sûr, et puis Nathan viendra me voir. Pour elle, c'est tout à fait normal d'aller aussi loin. Et je ne veux pas la freiner dans sa découverte du monde, bien au contraire.
Du coup, tu finis New York et tu décides de rentrer au Gabon directement.
Pourquoi
tu
restes pas ? De rentrer au pays.
De rentrer au Gabon. Pourquoi tu restes pas ?
Ben alors, la bonne nouvelle avec les États-Unis, c'est que quand on valide un diplôme, si on valide un bachelor, un master, un truc comme ça, on a automatiquement droit à un permis de travail d'un an. Donc, on sort du statut du visa F1 qui est le visa étudiant. Et évidemment, on me le propose. Et moi, en bonne gabonaise, non, 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 I have to go home. Oui, alors, parce que deux raisons essentielles, trois même. J'avais déjà mes deux fils aînés qui étaient restés avec ma maman. Et c'était un crève-cœur d'être aussi loin de mes enfants. Bien sûr, donc absolument. Tous les Noëls évidemment et toutes les grandes vacances comme on dit, je rentrais les voir, mais c'était très difficile et en même temps ça me donnait la force d'aller jusqu'au bout de ces études-là et ne pas redoubler une année inutilement, mes enfants étaient ma boussole comme ça vu que je les avais eus sur les bancs de l'école. La deuxième, c'est que je fais partie des gens qui viennent d'une famille modeste, donc j'ai étudié à l'étranger à cause d'une bourse d'études, donc comme on dit, ma tête m'a sauvée, rien d'autre. Et je voulais rentrer, m'occuper de ma mère, ma grand-mère, mes deux petites sœurs, mon cousin qui était donc le fils de la petite sœur de ma mère qui était décédée 2 ans avant. C'était pas un poids, c'était presque quelque chose de très naturel. Ouais. Non, quelque chose de très naturel, comme je te disais dès le début, le sens très aigu de la famille. Ouais. J'étais la première de ma famille à avoir eu le bac, j'étais la première à avoir fait des études supérieures, j'étais la première à avoir tout fait, voilà. Est-ce que j'étais la première à avoir eu un enfant sur le banc de l'école ? Non. Je voulais mettre ma mère en haut, voilà. Je voulais emmener ma grand-mère à Biarritz avec moi, parce que je me souviens, à l'époque, on prenait des appareils photo Kodak jetables de 24 photos. J'allais les imprimer, j'envoyais à ma famille. Et ma grand-mère avait bugué sur une où j'étais à Biarritz. Elle me disait, Linda, là, c'est joli, hein, je vais aller là-bas et tout. À côté de la plage, il y a des marches avec plein de jolies fleurs couleur pastel. Et j'ai dit, ok, mamie, je t'amènerai. Comme elle aimait boire la bière, on ira boire des bières comme ça au bord de l'eau. Et ensuite, on ira au casino. Donc, j'avais toutes ces choses que je voulais faire pour ma famille. C'était inconcevable que je reste aux États-Unis. Et même en partant, l'école nous avait proposé des offres d'emploi. On m'avait proposé un job également chez Alcatel à Londres. J'ai balayé ça. Mais je t'avoue, il y a des fois, je m'assieds et dis, eh Dieu, ma carrière à l'étranger, à cause de vous tous là. Ah, c'est les gens, je suis énervée. Je ramasse mes enfants comme des poissons pourris. Et ça me regarde, t'as rien demandé. Et donc, je suis rentrée, le cœur en paix. Et évidemment, j'avais de grandes ambitions de travailler chez Total Gabon, chez Celtel Gabon, à la direction de la com. Pas tout de suite, hein, comme direction de la com, mais bon, dans 3, 4, 5 ans, de récupérer la direction de la com vers la trentaine. Et tous les endroits où j'avais envoyé mon CV, chez Nestlé, les grandes multinationales, hein, CFAO, qui sont installées chez nous, pas de retour. Un seul m'avait répondu par courrier postal, c'était Total, qui, avec toute la formule, hein, qu'ils sont touchés, voilà, mais son regret de ne pas pouvoir me donner des suites favorables à cette demande, et blabla. Et je me suis dit, ok. Et ma grand-mère, et ma mère, au départ, qui faisait le malin, ah, ma fille est aux États-Unis, ma fille parle anglais, chine, machin, américaine, quoi, qu'est-ce. Ma grand-mère en avait marre au bout de 6 mois. Elle dit, ah, t'es chaude d'anglais, là, ça ne paye même pas. Et je la voyais déçue parce qu'elle voulait juste faire le pharo dans le quartier. Et puis, une opportunité s'est offerte à moi de m'associer à quelqu'un qui venait de créer une agence de com au Gabon, qui n'était pas gabonais et qui cherchait un associé gabonais. Lui était créatif, moi j'étais une excellente commerciale avec la tchatch, les mots justes et tout. Et c'est comme ça que sur le papier, on a partagé la boîte. J'en avais 51% des parts, lui 49%. Et je me suis mise à mon compte. Mais je t'avoue, ce n'était pas facile au départ parce que pour les parents, si on t'a nommé au ministère du plan, oui, ça c'est bien. Mais dire tu fais communication, ma grand-mère, c'est communication, c'est quoi même ça, c'est quoi? Que tout le monde sait parler. Je dis, mais non, mamie, c'est un métier. Et oui, elle ne voyait pas encore le fruit de ce travail. Elle ne voyait pas Biarritz et ses bières, tu vois.
Ouais.
Et j'ai fait mes débuts dans un cybercafé qui était juste à côté de chez moi. Pour emmener mes enfants à l'école, j'avais pas de voiture, donc j'avais un taxi que je payais au mois, qui venait les chercher le matin. S'il allait pas avec moi, il allait avec ma mère. Il revenait me chercher à midi pour chercher les enfants. Donc c'était assez modeste. Et à côté de moi, dans le cyber, le box à côté, à gauche ou à droite, il y avait des filles qui cherchaient des blancs en ligne. Il y avait des gens qui font du phishing pour te
on
faire
croire. On était aux alentours de 2005, c'est ça hein.
2004, 2005. Ouais. Je suis rentrée mi-2005 et en décembre 2005, donc un peu avant, j'ai pu décrocher une campagne de lutte contre le sida, de sensibilisation donc, et le message c'était de dire « et si le sida avait ce visage ?» Et à l'époque, les campagnes sur le sida montraient des personnes faméliques, en train de mourir, dans les hôpitaux, des trucs qui font peur. Et les gens qui avaient le sida faisaient peur aux gens. Mais on n'en parlait pas comme d'une maladie qui peut s'attraper, justement, pas avec ce type de personnes, mais des gens qui ont l'air bien sous tout rapport. Et donc, moi, j'avais imaginé une campagne d'affichage de télé et de radio où on disait « et si le sida avait ce visage ?» Donc, des jeunes, 18-25 ans, on sait que les papas aiment les filles jeunes là-bas aussi, ce sont un peu comme ça que ça se dispatche. Et ce beau garçon, jeune fringant, de 25 ans, à l'affiche comme ça, super portrait, « et si le sida avait ce visage ?» Et puis, on met ton prénom en bas, Malik, 25 ans. En gros, Lago, tu ferais quoi ? Et j'ai démarché donc l'organisation qui s'occupait de la lutte contre le sida. Elle m'a dit « oui, non, on n'a que 3 millions ». J'ai dit « non, moi, budgétisé, c'est 18 ». Elle me dit « non, mais on ne peut pas ». Je dis « écoutez, moi, je venais des États-Unis, donc je sais que la météo sponsorisée par Ford, whatever is brought to you by… » Non, 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 il y a toujours un sponsor. J'ai dit « faites-moi une lettre de mandat et moi, j'irai voir des opérateurs économiques qui ont des budgets. C'est soit la grande distribution, soit la téléphonie, soit les brasseries. » Et au premier rendez-vous chez Saltel, ils m'ont dit « oui, pour 18 millions ». Donc, la pub était tournée par et pour l'Obdas, mais à la fin, ce spot vous est offert, ce message vous est offert par Celtel. Voilà. Et puis, il y avait le petit jingle, Celtel, à vous la parole. J'étais contente et j'avais 18 millions que je devais bien évidemment dépenser dans la prod. Mais va trouver maintenant des jeunes qui veulent poser comme ça. Mais il n'y avait personne. Tous ceux qui venaient au casting, quand tu leur expliquais, oh non, madame, pardon, on va dire que machin, devine qui a fini par poser, moi-même.
Oh non.
Ben, j'avais 25 ans et je me suis payée. Et le garçon, c'était le fils de la directrice de l'organisation de lutte contre le sida, qui était un artiste, chantait du reggae, il avait rien à foutre de rien. Et il a pris son cachet à l'époque, je crois que c'était 500 000 que je lui avais versé à moi aussi. Et puis, il y avait un volet avec les enfants qui, eux, disaient, je me souviens très bien de la campagne, hein, qui disaient, je veux que tu sois là quand j'aurai mon bac. Ensuite, il y avait une autre petite fille, je veux que tu me conduises à l'hôtel le jour de mon mariage. Je veux, je veux, je veux. Et puis, à la fin, c'est disait, papa, maman, protège-toi du sida, reste avec moi. Et là, c'était plus facile de trouver des parents qui mettaient leurs enfants à contribution. Et cette campagne m'a révélée aux yeux du public et des annonceurs, en fait. Et c'est comme ça que par ricochet, j'ai décroché d'autres marchés tout de suite. Mais j'aime dire aux gens qui s'intéressent à mes débuts de dire, vous n'êtes pas obligé de commencer par des contrats minables et de facturer pas cher. Je savais ce que je valais et je savais ce qu'il me fallait pour produire cette campagne. Donc, hors de question que j'accepte 4 500 €. Je savais que c'était 18 millions. Je crois que ça fait 10 millions, c'est 15 000 €. Ouais, c'est 20 et quelques mille euros, c'est beaucoup.
Ouais.
28 000 à peu près, un peu plus de 25.
Surtout en 2005 dans nos pays, oui.
Ah non, non, la campagne d'après, j'ai tapé plus. J'ai vendu plus. Et là, ouais, banco, je me suis acheté une voiture. 6 mois après, une deuxième voiture. Là, on commence à faire des erreurs bêtes que Philippe Simon ne nous pardonnerait pas. commençait à faire des travaux à la maison.
Et ta grand-mère, elle commence à voir.
Oh, ma grand-mère était en haut. Elle buvait les bières aller-retour. Et surtout, quand la famille venait raconter leurs problèmes à la maison, moi, j'étais jamais là parce que je bossais tout le temps. Mamie disait, non, Chine n'est pas là. Donc, j'ai pas d'argent à leur donner pour le taxi vu que je suis pas là. Et mamie prenait dans son argent à elle que je lui donnais. Elle disait, oui, tu me dois 10 000 parce que j'ai donné à ta tante Clarisse. Je lui dis, mais je t'ai jamais dit, mamie, de donner ton argent. Ou alors, il y en a qui venaient et ma grand-mère faisait les courses dans le congélateur et dans le garde-manger pour eux.
Oui, d'accord.
Voilà, souvent, on va acheter le poisson en carton, elle va prendre deux poissons dedans, un régime de banane, elle va enlever 5-6 doigts, le sac de riz, elle va mettre dans un petit sachet, et elle leur donnait jusqu'à l'huile. Ma grand-mère faisait des trucs à l'ancienne au village. Et c'est cette manie de s'occuper des autres, en fait, qu'elle m'a vraiment transmise. Même si parfois je l'ai un peu payé cher parce qu'il y a des gens qui ne méritent vraiment pas et puis qui en abusent, ça crée une forme d'assistanat. Mais malheureusement pour moi, donc 6 mois après mes débuts, plutôt fulgurants, ma mère est décédée un peu avant Noël. Et ça a remis tout en perspective. Et là, il fallait que je m'organise différemment, avec une grand-mère que je devais surveiller comme du lait sur le feu, parce que c'était sa fille aînée. Mais l'année d'avant, celle d'avant et encore celle d'avant, ma grand-mère avait enterré successivement un de ses 5 enfants, donc il n'en restait plus qu'un. Et j'avais encore plus ce besoin, et j'étais contente d'être rentrée, en me disant, heureusement, j'ai pu voir ma mère ces derniers mois. Et puis j'avais mes 2 petites sœurs à m'occuper, donc on rentrait dans un mode warrior activé, où tu éteins ce que tu ressens, mais tu es en mode, je dois m'occuper de mon travail, des enfants, maintenir un truc à flot. Et c'est là que j'ai développé quelque chose qui me rattrape maintenant aujourd'hui. J'en parle un peu sur les réseaux sociaux, où ma forme physique n'est plus la même, mais en fait, du fait d'avoir accumulé beaucoup de choses. Et si je peux commencer à donner des conseils qu'on ne m'a pas demandé, en bonne grande sœur, c'est de prendre soin d'abord de nous avant de vouloir prendre soin des autres. Même nos enfants, on ne peut pas bien prendre soin d'eux si on n'a pas pris soin de nous. C'est très important. Et de savoir dire non. Peu importe la charge familiale, peu importe le bagage transgénérationnel, il y a des habitudes, aussi nobles soient-elles, qu'on doit savoir déposer par terre. Dans notre propre intérêt physique, physiologique et mental. Mais donc, après le décès de ma mère, je suis restée au Gabon 9 ans, j'ai travaillé là-bas, mon agence a grandi, on a décroché, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Hein. J'ai travaillé avec tout ce qui peut exister, les compagnies aériennes, des banques, des assurances, évidemment dans la téléphonie, des émissions de télé, Miss Gabon, j'ai présenté le concours Miss Gabon. Si vous allez googler, vous verrez une version mince de China qui Mais présente Miss Gabon.
Ça, tu l'as appris par toi-même. Enfin, t'as pas fait, t'as, certes, t'as fait une école de com, mais c'est différent d'être d'animé ou de...
Oui, non, on fait pas d'école d'MC. Alors, moi, j'ai juste découvert par le papa de ma meilleure amie, tonton Jeannot, père son âme. Nous, la fête de l'indépendance, c'est le 17 août. Et j'avais fêté un 17 août chez eux quand j'avais 19 ans, je me souviens. Juste, c'était les vacances de ma première année. Et ils avaient mis la sono avec la musique, DJ, blablabla. Et il y avait un micro, donc les enfants s'amusaient, l'effet d'écho sur le micro, là. Et moi, je trouvais ça tellement marrant. À l'époque, on commençait aussi à boire un peu d'alcool. Qu'est-ce qu'on buvait à l'époque? Le truc qui a un goût de café, là.
Guinness?
Non, pas Guinness. Non, sucré. Baileys, le Baileys.
Ah, yes, ok.
Ouais, ça fait longtemps, je ne bois plus d'alcool, donc je suis plus trop à la page. Donc, je pense que j'ai bu un verre de Baileys ou deux, j'étais assez chaude et j'ai pris mon courage à deux mains. J'étais là, Mike, animé, dès qu'un copain arrivait, voici l'arrivée d'Aristide, le grand Aristide, mon pao, le grand phare. Et toute la soirée, c'était ça. Et je me souviens, tonton Jeannot m'a dit, ma fille, tu devrais faire ça, tu es une excellente MC. Comme quoi, parfois, il suffit d'une parole de quelqu'un d'autre pour que ça nous reste dans la tête. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, quand l'occasion s'est présentée, j'ai jamais douté. Mais la première fois où j'ai vraiment fait MC et que j'étais payée pour cela, c'était même pas pour Miss Gabon, c'était pour un autre événement où par défaut on trouvait pas quelqu'un et puis l'organisatrice m'a dit Kuchina, pardon, moi j'étais juste en charge de l'organisation, m'a dit est-ce que tu peux prendre le micro, animer le truc et tout. Je dis ok, allô, hop, sur la piste et puis enfin sur le podium et puis ça s'est très bien passé. Et que de félicitations, que d'accolades, bravo China. Et l'année d'après, donc Miss Gabon me contactait par le biais de Edgar Yonke, qui est un très grand producteur de musique. Je me souviens, il m'avait appelé un dimanche, il me dit « Oui, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Retrouve-moi, je suis au resto tel. » Le plus grand resto de Libreville, le Phare du Large, qui refuse d'aller manger au Phare du Large. Il me dit « Ok, j'arrive !» Et j'arrive, il y avait tout le staff de Miss Gabon. Il me dit « Voilà, je voulais te présenter à l'équipe, on a décidé que c'était toi l'animatrice cette année. » Sachant qu'il y a un animateur emblématique tous les ans. Et je dis, mais what about him? On dit, non, c'est toi qui vas présenter le concours. Une femme. J'ai trouvé ça très visionnaire. Mais surtout, j'ai accepté parce qu'il voulait mettre le mandat de la Miss cette année au service, évidemment, d'une cause, mais qui était donc les maternités, qu'on appelle ça, trop jeunes. Et moi, j'ai eu mon fils aîné sur les bancs de l'école. Donc, je me disais, okay, ça fera parfaitement sens. Et je vais pouvoir également, même si je ne suis pas la Miss, parler à ces jeunes filles et leur dire, si c'est quelque chose qui arrive, parce que personne n'a en projet de se dire, oh là là, je vais avoir un enfant en quatrième ou en première, mais que vous avez l'obligation encore plus de vous accrocher.
De continuer.
Et voilà. Et le concept, c'était de lever des fonds avec les sponsors pour construire une crèche maternelle, une crèche, pardon, où les mamans, donc les jeunes filles scolarisées, mais qui sont déjà mamans, pouvaient laisser leurs enfants à la crèche sans payer, à condition de maintenir une moyenne supérieure ou égale à 12 de moyenne. Okay. Chez nous, c'est un peu chaud hein, dans les lycées publics. Et chaque trimestre, donc, on vérifie les moyennes. Si la moyenne tombe, bah, voilà. Si ce n'est pas le cas, bah, on vient chercher l'enfant avec un quart qui vient le chercher. La maman n'a pas à le déposer à l'école. La cantine, les couches, tout quand l'enfant est à l'école. Et puis, elle vient juste le chercher le soir avec une annexe pour permettre aux mamans de réviser également. Okay. Avant de rentrer à la maison avec les enfants. Donc ça m'a plu. Et j'ai adoré cette expérience. Malheureusement, en chemin, il a été décidé que la Miss allait s'occuper maintenant des personnes âgées, ce qui est tout aussi noble. Et donc voilà, c'était ma seule expérience avec Miss Gabon en 2012. Ensuite, je suis venue m'installer en France avec ma famille.
D'accord. OK. Et du coup, donc, tu as fait, la, on va dire, la repatriation et le retour en France. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi ?
Pour des raisons familiales, parce que professionnellement aussi, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et puis, je voulais faire une formation en plus. Donc, c'était soit je partais 6 mois, je laissais mes enfants, soit je venais avec ma famille pour faire cette formation-là. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains en me disant, OK, ben, on amène les enfants, ils sont assez grands, ils vont se débrouiller. Mais j'avoue, au début, il y avait des épisodes, ah, maman, on a fermé la porte et la clé à l'intérieur, donc je dois revenir. Et à l'époque, on habitait dans le 10e arrondissement. Ma formation était après la Défense, je sais plus, un peu après la Défense, je me souviens plus exactement l'arrêt de bus, mais je devais descendre à la Défense et prendre encore un bus. Okay. Et des fois, ça m'arrivait de rebrousser chemin comme ça parce que mon fils est rentré manger à midi et puis il a claqué la porte. Donc, les réalités des mamans. Mais j'adorais le soir quand on étudiait parce qu'ils avaient leur cahier. Moi, j'étais encore plus studieuse avec mes stabilos. Je traçais tout bien, je mettais les dates et tout. Mais je me rends compte, à l'âge adulte, on étudie mieux que quand on est plus jeune. Et donc là, mon objectif était de décrocher ma certification d'État de coach en image. Donc, je suis certifiée okay. d'État en France et membre du réseau international des consultants en image. J'ai adoré cette formation parce qu'elle me permettait de coupler à ma formation en com une spécialisation sur la com personnelle.
Et donc, pour ça, est-ce que ça faisait partie d'un projet, que tu avais nourri quelque chose ou c'était une aventure un peu que tu lançais? Et pourquoi tu te dis, je vais rajouter cette formation en plus?
Parce qu'en fait, en France, j'avais deux options. Soit j'intégrais une agence de com ou un média. Et donc, pour la première fois de ma vie, après presque donc 9 ans à mon propre compte, je me retrouvais salariée de quelqu'un, c'était hors de question. C'était trop dur. Je n'aurais pas eu la même liberté de mouvement. Et surtout, avec 4 enfants, que j'ai 4 enfants. Soit je créais une boîte de com, mais attention, on est en France, ce n'est pas les talents qui manquent ici pour ça. Au pays, on était 4-5 à se tirer la bourre comme ça, on avait un très bon graphiste, l'autre avait un très bon souci, moi j'étais une excellente commerciale et puis j'avais un réseau. À l'époque même, j'avais le numéro du chef de l'État dans mon téléphone. Non mais c'était en Paris, mais non pas que j'allais l'appeler. Mais je connaissais quelqu'un qui était donc la compagne d'un de ses petits frères.
D'accord.
Et ils avaient maintenant cassé, donc l'affaire était finie. Mais à l'époque, ça devait aller au mariage et tout, ils passaient les week-ends ensemble, bah, et nous on était genre, hein, quoi? Vous alliez à la Pointe de Nuit? Elle dit, ouais, non, j'allais en hélico avec la première dame. On dit, oh mon Dieu! Ah okay. Ouais, d'accord! Et l'affaire a fini comme ça en autre boudin. Et donc nous on était friandes de ces histoires, et elle me disait, oui, non, machin, mais elle a même, qu'elle devrait, enfin, qu'elle n'a pas eu l'occasion d'en parler avec Ali. J'ai dit, en plus, tu dis Ali? Elle dit oui, mais machin, j'ai son numéro. Et nous, on était genre, what? Tu as le numéro de... Elle nous a montré, c'était un 07. On était deux, donc je ne vais pas trahir le nom de l'autre. Mm. On a toutes pris le numéro, genre, on ne sait jamais en cas de qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, c'était des blagues, genre, si j'active ce numéro, il va y avoir un missile gamma qui va tomber dans ma maison. On va être éclatés tout de suite. On va tous être complètement pulvérisés. Donc, j'ai même amusé à dire que, ah ouais, moi, j'ai le 07 du président, mais pour rien au monde. En revanche, en bonne copine qu'on est, on dit, oui, tu dois l'appeler. Tu voulais dire ce qui s'est passé, c'est pas normal, Anna. Et elle a appelé sous nos très mauvais conseils. Son ex l'a appelé dans la seconde qui a suivi pour la menacer de tout et rien. Et on a compris qu'il vaut mieux pas appeler le président comme ça.
Je pense que oui, c'est pas évident.
Voilà. Donc la France, pour rester libre, disponible pour mes enfants, j'ai choisi de construire ma carrière autour de ma vie de famille et de maman. Et donc, il fallait que je travaille à mon compte, à domicile idéalement. Et le digital m'offrait une opportunité fantastique d'avoir mon activité dans la main, littéralement, ou sur mon ordinateur portable. Et c'est comme ça que j'ai migré vers les réseaux sociaux. Donc, Facebook à l'époque, parce que j'étais de la vieille école, pour me faire connaître comme une consultante en images, même si les gens l'associaient beaucoup à Christina Cordula, comment s'habiller, ceci, comment nouer une cravate, comment porter des couleurs avec des rayures et des fleurs et des machins. Moi, ça me saoulait royalement, même si ça fait partie de mon métier. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait, c'est comment soigner votre image et vous en servir pour booster vos carrières. Et donc, petit à petit, la communauté s'est créée, les gens venaient, je montrais l'arrière-cour, ma vie de maman, le travail, ce que je fais. Et au bout de quelques mois, j'ai eu mes premiers clients. Et progressivement, avec cette communauté, des marques sont venues me proposer des collaborations au bout de 2 ans. Et aujourd'hui, donc, je suis un ratio de 60-40. Donc, 40 les coachings et 60 les collabs avec les marques.
Okay.
Et vraiment, avec le temps, cette communauté continue de grandir, me donne aussi des sujets sur lesquels je peux m'appuyer, voilà, et en parler, soit à l'écrit, soit pour des lives, par exemple, pendant le confinement, ça a été une opportunité de nous connecter, de parler de ces choses, parce que je savais que les gens se sentaient seuls chez eux et angoissés à l'idée de mourir ou de perdre un proche. Et ces lives étaient des moments de retrouvailles, un peu comme au village autour du feu, où on raconte une histoire, où quelqu'un arrivait de l'étranger, et puis il raconte, c'était comme ça, c'était machin, et nous, les petits, on est là, genre, waouh, tout est trop génial. Et donc, il y a 2 ans, j'ai commencé à vouloir écrire parce que j'aime raconter des histoires.
Avant d'aller sur ça, donc on va y arriver, hein, mais c'est juste, comment tu t'es senti toi? Parce que moi je trouve ça hyper bold, c'est-à-dire que tu as pris tes économies, ce qui te, si te restait, tu es venu faire la formation, certainement les 2 premiers mois tu n'avais pas de clients.
Oh non, j'avais beaucoup d'argent, non, j'avais de l'argent.
Ah, ok.
D'accord. Non, j'avais de l'argent, j'étais. Okay, non, je travaillais bien au Gabon. Et d'ailleurs, mon train de vie aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'avais au Gabon, parce que déjà la qualité de vie est différente, les clients que j'avais, c'était des grandes entreprises, etc. Ici, vraiment, j'ai revu tout à la baisse, mais d'accord, je ne déteste pas non plus cette nouvelle direction qu'a pris ma carrière. Je gagne pas, je gagne même pas le quart, même pas le cinquième de ce que je gagnais au pays. J'avais des contrats déments, toujours en millions, en dizaines de millions, en plusieurs dizaines de millions parfois. Ici, pour te donner un ordre d'idée, un accompagnement avec un client, c'est 500 euros pour 4 séances d'une heure. Donc, avant que je fasse des dizaines de millions de CFA par mois, il va me falloir faire des coachings jusqu'à 23 heures et me griller les tympans à vie. Mais j'avais cette même volonté dont je te parlais au début, de toujours vouloir aider, d'être là pour les autres, au Bangam, donner aux autres ce qu'ils n'ont pas eu en tant que grande. Et d'ailleurs, j'ai été très... pas du tout surprise de voir certaines personnes sur Instagram m'appeler Yaya, Tata, parce que je comprends aussi cette connexion qui fait qu'on reconnaît un aîné. Il y a des automatismes de Yaya et de Tata. Elles prennent soin, elles prodiguent des conseils. Moi-même, j'ai mes propres Yaya et Tata et j'adore passer du temps avec elles, qu'elles sont une très belle école de la vie. Et avec elles, on n'a pas la même pudeur qu'on a avec nos mamans. Je suis très proche comme ça de mes nièces et j'essaye de l'aider avec ma fille en me disant, mais est-ce que je pourrais un jour... parler ou avec mes garçons, par exemple, en leur disant, ouais, mais les garçons, c'est important, le cuny. Ils vont me dire, maman, quoi?
C'est vrai que c'est pas évident.
Que non, vous pouvez pas juste rentrer, sortir Jésus sur la croix. Mais je me dis, mais comment je vais dire ça à mes enfants? Mais avec mes neveux, je me vois au calme en train de les traumatiser avec ça, en disant, tata, elle est cool. Mais je sais pas, je vais peut-être leur envoyer des emails.
Du coup, t'as pas encore trouvé la formule?
Non, j'ai offert des préservatifs à chaque fois qu'ils ont eu 15 ans, en disant, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Hein. Et je me souviens, le deuxième me disait, maman nous les donne à l'école, en fait, il y a des distributeurs. Et ils jouent même à faire des ballons d'eau, ils jouaient à l'époque à faire des ballons d'eau avec. Là, mon dernier à 14 ans, c'est mon bébé, c'est mon dernier fils, c'est mon sac à main.
Ça peut passer par un podcast.
Oui, certainement, que j'en parlerai au cours d'un podcast. Ouais, ils vont pas écouter. Non, déjà, ils aiment pas aller. Ma fille est à fond sur mon Instagram et regarde les commentaires. Maman, pourquoi quelqu'un a commenté mal comme ça, là, machin et tout? Mais mes garçons, non. Ils sont totalement à l'ouest. Ça les intéresse pas. Ça les énerve. Si quelqu'un me reconnaît ou reconnaît leur sœur dans la rue, c'est genre, je vais traverser.
Ah ouais?
Ouais, non, ils aiment pas du tout. Surtout mon dernier et l'aîné. Le deuxième est un peu plus caméra ready. Ma fille, alors là, jamais. Dès qu'il y a un téléphone, tchou, elle est prête. Toujours. Dès qu'on est dans un nouveau décor, il faut qu'elle fasse des TikTok dans les centres commerciaux, chez le médecin, elle fait des TikTok partout, dans les taxis. Elle ne les poste pas, en revanche, parce qu'il faut ma permission. Mais elle fait des TikTok si elle ouvre un Happy Meal, elle fait des TikTok pour tout et rien. Et des fois, j'entends toi et je dis, hey, tu fais pas des TikTok avec toi? Elle dit, mais non, maman, j'écoute des TikTok. Ah, ok, d'accord.
Oui, là, les enfants. Et du coup, bah, on arrive du coup sur le livre. Donc, l'idée du premier, c'est maman qui commande. Mm-hmm. Il est arrivé pendant le confinement, c'est ça?
Non, bien avant. An avant, il me semble. Peut-être même 2 ans avant. J'avais envie d'écrire des histoires et j'hésitais entre raconter le deuil de la mère, donc un livre intitulé « Ce que j'aurais voulu que ma mère me dise sur la vie », mais la vie ne nous a pas laissé le temps. Donc, je continue de l'écrire et je l'ai dédié à ma fille. Et à toutes les filles qui perdront un jour leur mère, parce que c'est quelque chose qui va arriver, ou qui l'ont déjà perdu, et à se préparer à accepter l'idée que c'est à nous d'enterrer nos parents et pas le contraire. Et c'est l'un des plus beaux conseils qu'une de mes tantes m'ait donné à la mort de ma mère, en me disant, si ta mère avait dû t'enterrer, elle serait morte 2 fois. Le jour de sa propre mort à elle et le jour de ta mort. Donc, que ce soit à 80 ans ou maintenant, peu importe l'âge auquel tu enterres ta mère, c'est l'ordre normal des choses. Donc ça m'a beaucoup aidée et je prépare mes enfants à l'idée qu'un jour je ne sois pas là, mais qu'ils sachent que je suis aussi toujours là. Je suis dans leur chair, je suis dans l'énergie qui est autour d'eux, je suis dans tous les objets que j'ai touchés, je suis dans leur éducation, leur manière de sourire, toutes ces petites choses. Des fois, je vois ma mère dans les traits de visage de mes enfants ou dans les habitudes de ma fille ou dans les goûts alimentaires de mes garçons. Donc on ne meurt jamais. Le fameux poème « Les morts ne sont pas morts », ils sont là, toujours autour de nous. Et qu'ils aient une dimension plus spirituelle et de leur dire « Tu vous faites même les bêtises là, hé hey, !» Je vais venir vous, je vais venir vous hanter, hein. Je suis toujours là. Voilà. Ouais. Je suis toujours là. Et j'ai cette certitude que ma mère est toujours là, qu'elle veille toujours, surtout dans les mauvais jours. Je vais avoir 2 réactions. Implorer ma mère, maman, pardon, pardon. Si tu peux même mettre une banane sur le chemin de la personne qui essaie de me pourrir la vie, laquelle glisse bien, se casse le coccyx, hein, règle-lui ça bien de là où tu es. Ou alors, j'ai tendance à rire en imaginant ma mère en train de se dire, voilà maintenant. Surtout quand ça a à voir avec les enfants. Parce que ma mère s'occupait beaucoup de mes enfants de son vivant et j'étais presque la maman toujours de passage. Et d'ailleurs, quand mon deuxième à l'époque avait 4 ans, quoi, il disait maman, nous tous on disait un, donc ma mère, ma sœur et ma mère. Parce qu'il appelait tout le monde maman. Okay. Voilà. Et il disait non, maman Ruth, ou alors maman China, ou maman Fafa. Et là, on savait qui est ce qu'il veut. Et c'est vrai que je suis vraiment pleinement devenue mère après la transition de ma mère. Et dans les moments où c'est un peu dur d'être parent, parce que c'est dur d'être parent, j'imagine ma mère en train de bien se moquer que « voilà, c'est ça, vous êtes allé faire les enfants, non, vas-y !» Et en même temps, sa petite voix me disant « mais bien sûr que tu peux le faire ». Et quand je l'ai fait, « mais tu as vu, toujours le temps de pleurer pour rien ». Ma mère était un peu ce genre d'amour un peu tough love, en même temps une femme très douce. Mais ma mère savait que j'étais capable de tout, elle ne le verbalisait pas. Mais c'est quand j'avais fait qu'elle disait, voilà, non, j'avais peur de quoi. Et c'est comme ça que j'aime l'imaginer et surtout me dire qu'elle est plus heureuse de me savoir heureuse. Et que si je pleure, ma mère pleure. Si j'ai mal, elle a mal. Donc je veux aussi écrire ce livre pour apprendre aux gens à être heureux malgré le départ, la transition des êtres aimés, parce qu'ils reposent plus en paix en nous sachant heureux et en paix avec leur départ. Donc il y avait ce premier livre qui va mettre longtemps à sortir parce que de choses j'ai encore envie d'écrire et peut-être que je vais voir ma fille grandir avant de l'écrire pleinement, la voir devenir jeune femme. Je voulais écrire un autre Sex and the City à l'africaine qui s'est transformé en un script d'une comédie romantique que j'espère avoir l'opportunité de tourner donc en Côte d'Ivoire dans 1 an, 2 maximum. On a déjà fait le casting, c'est un projet très très avancé. Et puis donc le troisième, c'était de raconter mes péripéties de maman et je voulais que les enfants lisent. Quel meilleur format que la BD? Et donc 2 ans pour trouver l'illustratrice, 1 an pour valider tout, et il est sorti donc en juillet dernier et s'intitule C'est maman qui commande.
Ok. C'est une série, hein, c'est ça, ou un film?
Alors à l'époque je voulais faire une série et ensuite je l'avais pitché à Canal+. Je voulais une série donc, qui se passe à Paris avec des afro-descendantes parisiennes, modeuses, tout ça machin, des histoires d'amour, avec des épisodes, des choses complètement loufoques. Il y avait un épisode, par exemple, qui s'appelait Le Zizi Coupé, donc une fille qui sort avec un mec noir, mais se rend compte qu'il n'est pas circoncis. Donc la question de l'épisode, c'est est-ce que tu peux sortir avec un noir qui n'est pas circoncis? Voilà. Oui, mais ça ne parle pas que de sexe, ça parle de plein de choses. Ou alors oui, une qui est totalement excitée par le maître de CP, de C triplé, parce qu'il a une odeur corporelle qui réveille tous les phéromones chez elle. Et donc, oui, est-ce qu'on coucherait avec le... Mais la voilà en train de s'inscrire à des activités de parents d'élèves et tout, juste pour respirer l'odeur du maître. Alors qu'elle est mariée, et c'est le maître de ses triplés. Je suis assez fière de ce scénario, parce que je sais que ce sera quelque chose de frais, de nouveau, dans Paris. Et puis, Canal m'a dit non, ils ne produisent que des séries qui se passent en Afrique, le décor africain, les trucs. J'ai dit voilà, voilà. Vous aimez toujours la poussière, les trucs. C'est pas forcément vrai. Je caricature. Il y a de très belles séries qui sont sorties. Sarkoé Mangane. En ce moment, il y a une série gabonaise intitulée Manuata. Il y a des belles productions qui sortent de Canal. Donc, j'ai dû repenser la chose. Et un ami m'a dit, China, on est plus fort sur notre terrain. Toi, ton terrain, c'est l'Afrique. Paris, là, tu as encore une gaouaise qui se perd entre le 15e et le truc arrondissement. Je ne connais pas grand-chose parce que je travaille vraiment de chez moi. Mais Paris is my... Paris. L'Afrique is my place. Après, je ne pouvais pas aller le tourner au Gabon parce que, pour mes opinions politiques, je n'ai pas la possibilité de rentrer chez moi sans risquer de me faire arrêter. Et donc, je me suis dit, très bien, quelle est la ville la plus cosmopolite, dynamique, ambiancée la nuit, qui bouge, mode, francophone et tout ? Tadam, 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 je te laisse répondre.
Abidjan,
évidemment. Et je me suis dit, Abidjan, c'est le Las Vegas de l'Afrique francophone. Et au lieu d'en faire une série, donc j'ai rechangé le script, parce qu'on n'écrit pas un long métrage comme on écrit une série. Absolument. Toujours les mêmes personnages. Et évidemment, la série commençait autour du mariage de l'une d'entre elles. Et donc, je me suis dit, le mariage, c'est extrêmement coûteux pour une première série. Je vais faire le premier film, donc, sur l'enterrement de vie de jeunes filles. Et au lieu d'aller à Las Vegas, elles vont aller à Abidjan.
À Abidjan. À Assini, même, peut-être.
Non, il y aura du Assini, il y aura Abidjan la nuit. Donc, moi-même, j'ai dû aller en repérage à Abidjan, visualiser les hôtels que je voulais, les restos, les bars, la nuit. Il y avait plein d'endroits, je notais, je fais des photos. Donc, tout est assez bien écrit. On a fait un casting là-bas, à Dakar également, ici à Paris. Donc, je sais, mais quand tu verras l'acteur masculin dedans, ouh, là, c'est un Congolais. Lui-même, il ne sait pas encore qu'il est pris. voilà, il est magnifique. Il ressemble à Ty Diggs, je sais pas.
Attends, mais il va peut-être l'entendre là sur le podcast.
Mais il sait pas, c'est pas son nom, il sait pas qui c'est, il y a plein d'acteurs congolais.
Ok.
Il saura pas qui il est. Mais même moi, quand je l'ai vu au casting, j'étais genre, oh my god. Et c'est cette réaction que je veux que les filles aient dans, oh my god. Et la question que pose donc le premier film, parce que du coup, au lieu de faire une série, je me suis dit, je vais faire à la Very Bad Trip, un film 1, un 2 et un 3. Comme ça, j'ai toute ma matière, je ne jette rien. Et le thème central, c'est le mariage. Chose très importante dans nos familles. Et c'est l'une des deux occasions, des trois occasions qui réunit le plus la famille. Le mariage, la naissance d'un enfant et les décès. On se trouvait les décès assez glauques, etc. La naissance d'un enfant, bon ben voilà. Je me suis dit, je prends le mariage, c'est plus fédérateur. Et que de choses se passent dans les mariages, des scandales, des quoi, la maîtresse est venue, le quoi. Il y a de quoi rire, il y a à boire et à manger. Et donc, j'ai voulu aussi mettre à l'honneur le mariage de chez nous. Donc, le premier, c'est l'enterrement de vie de jeune fille. Et la question que pose le premier film, si moi je me lève avec mes meilleurs amis, on quitte Paris, chic-choc là, on va au Pullman ou au Noom, fêter mon enterrement de vie de jeune fille, dans un long week-end où il y a aussi la Sunday Abidjan, et puis je dois aussi aller, ben oui, récupérer ma robe de mariage à l'atelier des Liquam, et puis on doit aller assigner, et puis quoi qu'est-ce, machin, et que je tombe par hasard, le premier jour, sur mon ex, le gars qui m'a messé un gourmand, pas possible, quand j'étais étudiante. Et je ne savais même pas qu'il vit à Abidjan. Et comme le bon vin, il s'est bonifié avec le temps, et moi aussi évidemment, et que mon futur ex-mari est quand même loin, à 5000 km, et que le gars charge toujours un peu, est-ce que je vais me laisser tenter ou pas ? C'est la question que pose le film. Et donc à la fin du film, on verra si oui ou non, elle a donné ou si elle n'a pas donné. Voilà.
C'est une dinguerie. Voilà. C'est toujours avec Canal.
On verra. Maintenant, je préfère le malin à Canal en disant, you know what? Parce que je suis à même aujourd'hui d'aller le pitcher à Netflix, d'aller le pitcher à n'importe qui.
Il y a beaucoup d'acteurs maintenant.
Voilà. Et ensuite, dans le 2, donc le deuxième film, c'est le mariage coutumier. Okay. Et moi, je suis bantou, je suis d'Afrique centrale. Le mariage traditionnel chez nous répond à tout un cérémonial que beaucoup de gens ne connaissent pas s'ils ne sont pas bantous. Et je voulais créer le pont entre un mariage bantou, c'est-à-dire une fille bantou, donc elle est camerounaise, la mariée, et quelqu'un d'Afrique de l'Ouest. J'ai choisi le Sénégal pour la beauté de la culture, des cultures de là-bas, leurs costumes, la manière de s'habiller, leur cérémonial et tout, et de créer cette jonction entre les deux au cours d'un très beau film sur les mariages, parce qu'il y a plein de jolis wedding mariage films. On a The Wedding Party qui est du Nigeria, mais c'est un mariage occidental finalement avec la robe blanche et tout. Mais nous, on parle de la dot, et la dot telle que chez moi, les fonds payent, le bœuf, le machin, les épreuves, les tout. Et encore une fois, le tonton alcoolique, le cousin drogué qui fouille les sacs à main des gens, toutes ces choses-là. Les vampireux qui sont de sortie. Au village, qu'est-ce qui n'arrive pas?
Ouais.
Donc, mais, et d'imaginer ces Parisiennes dont la moitié n'a jamais mis les pieds en Afrique et encore moins dans le village de l'une d'entre elles. Et tout ce qui peut se produire là-bas. Et le troisième film, donc, c'est le mariage retour, qui est le mariage religieux au Sénégal. Et je voulais aussi montrer ce mariage traditionnel avec la, cette religion musulmane qui est très, très présente en Afrique de l'Ouest. Montrer aussi les pros et les cons de ce type de mariage-là. Et la question que posera justement ce mariage, c'est est-ce que le marié va choisir, parce que c'est une thématique d'ailleurs dont j'ai chaudement parlé aujourd'hui dans mon Instagram, le mariage musulman autorise 4 femmes. Si oui, le marié, voilà, voilà. Si le marié le souhaite. Donc, sauf que la mariée, à l'époque, elle ne savait pas ça, ses parents non plus. Et donc, ça va finir en palabre là-bas aussi au Sénégal, avec tout le feu qu'il y aura. Donc, se marieront-ils ou pas? Donc, en fait, l'idée, c'est de toujours questionner le mariage. Est-ce qu'il va toujours avoir lieu ou pas? Un coup, c'est un ex. Un coup, c'est la sorcellerie, hein, la tradition, tout ça. Et un coup, c'est la religion.
La religion.
Voilà. Et puis, le clash des cultures aussi et la place de la femme. Et c'est ces thématiques-là qu'il me plaît d'écrire. Je rigole des fois moi-même devant mon ordinateur. Genre, mais tellement, j'ai hâte de le voir à l'écran. Et je veux faire contribuer le plus de talents africains possible. C'est des films où je sais que la mode doit être à 80-90% made of Africa, la musique, j'ai dit la bande son dans ma tête, des nouveaux artistes, des plus anciens, pour le mariage avec la dot. Mais je rêve d'une méga star. On fait souvent venir des chanteurs locaux. Et moi, je rêve genre d'un Fally Ipupa, un truc comme ça sur scène. Je sais que ce sera la folie.
Excellent.
Et mes copines me disent, Shina, pardon, même ménagère sur ton tournage, je viens faire. Même si c'est pour tirer les câbles, laver les assiettes, je viens faire si on a droit à un concert de Fally gratuit. Donc oui, je sais qu'au moment M, j'irai certainement lui demander s'il peut venir nous chanter Hello Koyo ou je ne sais pas quelle autre chanson, je ne connais pas très bien son répertoire. Mais c'est une manière de célébrer aussi nos talents, nos histoires, nos vies, nos unions, nos familles, nos différences aussi autour de la comédie. Et que Dieu me donne longue vie pour que je puisse finir d'écrire, réaliser et produire ces 3 films.
Tu nous as mis l'eau à la bouche, en tout cas. Je pense que tout le monde, enfin moi en tout cas, j'ai hyper hâte parce que, enfin, au-delà de la qualité que tu mets dans ton contenu, donc je pense que ça sera énormément de qualité, mais il y a tous les thèmes que tu as posés, à la fois l'humour, mais aussi les thèmes de société.
Oui, et la culture.
Et je pense que ces sujets-là sont hyper importants à questionner sur la base de l'humour, ou même sur la base de... Et puis bon, y a toute la filmographie africaine qui se développe là.
Tout à fait. Ce que je voulais faire aussi, c'est de donner la parole aux femmes, une parole débridée, qui peut ne pas plaire. Et du coup, je voyais déjà des articles dans la presse sénégalaise, scandale, ça dit des gros mots dans ce truc. Je dis, on dit des gros mots partout, c'est juste vous qui ne voulez pas le voir. Voilà,
oui.
Un peu comme le puritanisme américain, mais les choses les plus énormes que j'ai entendues sur le sexe ou quoi, c'était souvent des femmes de ma famille. Parfois, les tatas sont assises, elles disent des trucs énormes. Toi, t'es un enfant, on va t'appeler, genre, papy, tu viens, va nous payer les coca. Donc, quand tu déposes les coca, il y a une partie, tu entends, tu dis, hein? Et si tu traînes pas, va là-bas! Vous avez toujours écouté les choses des gros, t'as envie de dire, bah, vous pouvez vous planquer quelque part au lieu de dire ça là dans le salon. Et puis j'avais des oncles aussi, les hommes avaient le droit d'amener les femmes à la maison pour dormir, leurs copines. L'inverse n'était pas autorisé évidemment, les filles ne pouvaient pas.
Bien sûr.
On regarde la vitesse à laquelle elle dit bien sûr. Culturellement,
parce que
ça passe pas.
Oui, voilà, malheureusement, oui. Malheureusement.
Bah écoute, pour te dire, il y a quelques mois, ma fille me disait, oui maman, mais mon copain il pourrait venir dormir chez moi. J'ai dit, de quoi? Pour faire quoi? Elle dit, ben parce que, comme ça, il peut dormir. J'ai dit, va le maintenant. Elle me dit, mais pourquoi? Alors, il fallait trouver une explication. J'ai dit, non, c'est non, parce que. Mais non, mais c'est pas grave. J'ai dit, non, pas le moment, il pourrait dormir chez toi quand tu iras chez toi. Elle dit, ben si j'ai 16 ans, je peux pas avoir un chez moi. Je dis, non, tu peux pas. Ben alors, tu me payes un appart à 16 ans. J'ai dit, pas le moment. Moi, je vais payer.
Ouais, d'accord.
Je vais payer non, vous êtes fous. Donc, j'ai essayé de lui dire des trucs. Très fort, on le taper. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi la violence? J'ai dit, pas le moment, c'est non. C'est comme ça, c'est comme ça. Et évidemment, tout de suite, elle me dit, oui, mais est-ce que eux pourront? Pour essayer d'être aussi juste composé. J'ai dit non. Est-ce que tu vois les filles venir ici? C'est non. Elle fait, oui, mais Jeanne, elle était venue. J'ai dit non, l'après-midi. Personne ne dort chez moi. Et du coup, mes garçons, je pense, ils espéraient quelque chose de cette conversation. C'était non. Pas par souci d'équité, mais parce que non, la maman que je suis, non. C'est même pas pour les garçons. C'est-à-dire la jeune fille, non, t'as rien à faire chez les garçons. Sachant que nous, on l'a fait, hein. On l'a bien fait quand on avait 17, 18, 19 ans, on révèle tous nos secrets là, mais non, c'est des choses comme ça qu'on n'arrive pas encore à accepter.
C'est sûr que ce n'est pas évident à accepter, oui. Bon, après, tu verras le moment où, quand ça se posera vraiment.
Non, chez eux, mais... dans leur maison, c'est fort. Pas chez moi.
Gina, ils vont avoir leur maison quand ils auront 20, 22, 25 ans. Et entre 16 ans et 25 ans, ils...
Non, mon aîné a 24 ans. Et d'ailleurs, je l'incite à ne pas déménager tout de suite en lui disant, là, il est en master 2. Donc là, il va finir. Je lui dis, mais chérie, t'es pas obligée de partir tout de suite. Tu peux rester
mais
encore...
Mais il voit sa copine où ?
Ah, ça, c'est leur problème. Donc, je lui disais, tu restes encore avec nous 2-3 ans. Tu économises jusqu'à tes 28 ans à peu près sur un PEL. Et puis, tu peux faire un premier achat d'un appart. Mais t'es pas obligée d'y habiter. Tu le mets en location et tu vis encore chez maman. Et lui me regarde genre, ben, et à quelle heure j'aurai chez moi ? C'est le deuxième. Alors, le compromis était que dans 2-3 ans, je déménage et que je leur laisse cet appartement parce qu'il était question pour moi de retourner vivre en Afrique. Donc, le temps que les petits aient terminé le lycée. Voilà, ça peut être le compromis. Moi, je pars et puis c'est la nouba dans la maison. Bon, ma fille sera partie en Chine, donc elle sera pas là pour voir le désordre de ses frères.
Elle veut vraiment y aller, d'accord.
Elle fait chinois depuis la sixième. Elle regarde des séries en chinois. Elle a des applications sur lesquelles elle apprend le chinois. Elle est très sérieuse là-dessus. Elle est à fond. Elle veut même épouser un Chinois. J'ai dit, mais c'est pas obligé de juste te marier quand j'ai dit, si, si, tu viendras me voir là-bas avec tes petits-enfants. Donc, ouais, ça me fend un peu le cœur le fait que ma fille veut aller encore plus loin que moi avec New York. Mais il est hors de question que je la bride dans ses ambitions et ses rêves. Elle veut travailler dans le luxe. Donc, elle veut faire des études de commerce et travailler pour des grandes maisons françaises. Je dis, mais bien sûr que tu as toutes tes chances là-bas. Si tu parles mandarin.
Chine en plus, ouais.
Et tu parles français et anglais parce qu'elle est aussi très à fond sur l'anglais. Quand on va à Londres, mais pour un rien, dit maman, envoie-moi, je vais dire un truc. Maman, dis-moi, je vais demander. Je dis ok, vas-y. Pendant que son frère, quand je vais dire, tu peux demander. Oh non, je dis rien.
Trop marrant.
Son frère, lui, il veut même pas demander. Ça coûte combien les chips? Il dit non, non, non. Mais ma fille.
Plus extraverti.
Ah ben oui, à fond, à fond, à fond. Ça veut pas dire que son frère est plus con ou quoi. C'est juste, voilà, il a une personnalité
bien sûr,
différente.
C'est extraversion.
Il n'est pas du tout intéressé à l'idée de parler aux gens. Il est même un peu spécial et ceux qui ont lu la BD vont le voir. Il est un peu bougon, presque un peu bizarre. Il pose des questions très bizarres. Il va me demander des trucs du genre maman, si quelqu'un va à l'hôpital et qu'on lui a tiré dessus par balle et qu'il guérit, est-ce qu'il doit quand même payer? Je suis genre ouais non bon ou si on fait un trou dans l'espace dans le sol et qu'on trouve jusqu'au fond comme un toboggan, est-ce qu'on tombe dans l'espace? ou des trucs du genre oui maman, parce que j'ai dit non chérie, Dieu t'a fait à son image, parce qu'on se moquait de lui à l'époque à cause de son afro à l'école. Et j'ai dit non mais tu es comme Dieu, il t'a fait à son image. Il dit hein, ça veut dire que Dieu a l'afro? Ils n'ont pas vraiment ça. C'est pas ça mon cas, mais ça le rend d'autant plus spécial. Et on l'appelle monsieur question. Sa sœur le trouve bizarre, moi je le trouve attachant.
Ils l'ont vécu comment d'être dans le livre?
Il déteste. Il a promis d'écrire un livre sur moi. Il va raconter tous mes secrets, à commencer par le fait que quand on rentre et que le code de l'immeuble, ça s'ouvre pas vite ou la porte s'ouvre pas vite, je suis à deux doigts de me pisser dessus. Et que oui, une fois maman qui a fait pipi dans les fleurs. J'ai dit, mais non! Trouve-toi une maison d'édition, trouve-toi un illustrateur, trouve-toi un imprimeur, mon fils. Hein. Mais je m'en fous, je suis une maman, un peu incontinente comme toutes les personnes qui ont porté des enfants. Et j'ai ce syndrome-là, je peux ne pas avoir envie de faire pipi. Et puis dès que j'arrive devant l'ascenseur, bam, tout de suite ça vient. Ou quand je sonne à la porte et que les enfants ne m'ouvrent pas tout de suite, mais je vais leur dire « Mais ouvrez !» Alors là, si je vais au couloir et que je vois une lumière dans les toilettes, j'ai juste envie de me « Santé !» Là, et ils savent, des fois j'entends un kiri qui se dit ouais, je vais aller jusqu'au bout de la chose pour voir. Et des fois, oui, il y a eu des fuites ou pas. Ça a très vite viré hein, de la réalisatrice de cinéma à succès à la femme qui se pisse dessus là. mais c'est pour contrecarrer tous les plans de mon fils.
Mais oui.
Pour qu'ils se disent, il ne peut pas me shame. Moi-même, j'ai déjà tout dit. Ma fille, elle est plus contente. Elle s'est assurée que les camarades de son école l'achètent, pas qu'elle offre. Hein. Elle a envoyé le lien pour qu'ils achètent via PayPal. Au passage, c'est sur www.china.com, vous pouvez le trouver.
Ouais,
et on a offert assez de Playmobil, assez de Barbie, assez d'Astérix. Donc, pour ce Noël, on peut offrir une BD qui est très drôle, bien illustrée, bien écrite. Vraiment, je suis très, très fière de ce produit, de la moindre page, de la moindre histoire.
Ce que tu m'as raconté là, c'est celui de l'édition qui vient de sortir, le deuxième.
Oui, non, non, c'est le premier. Je ne suis
C'est le premier.
qu'un. On est juste au deuxième tirage. Donc,
Oh, ok, d'accord, c'est
voilà.
la même série, mais le deuxième tirage, d'accord.
Mais comme
Ok.
j'ai 24 ans de maternité, donc beaucoup, beaucoup d'histoires, et tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment du vécu. Hein. Donc, j'ai pu me projeter comme ça sur au moins 6 tomes. Le deuxième et le troisième, je sais que l'un sera sur la rentrée scolaire et puis ce sera des histoires autour de l'école, parce que que d'aventures on a vécu aussi avec l'école. Moi qui vais empoigner les enfants des gens devant le portail de l'école pour menacer de les bastonner parce qu'il a harcelé mon fils, ouais. Et de dire si t'es pas content, tu vas chercher ta mère, je casse la gueule à ta mère, tu appelles ton père, le père Nathan va taper ton père, et on monte jusqu'aux grands-parents. Et je me dis, ah, on va désinguer ma BD, genre voilà la violence. Mais non, moi le harcèlement scolaire, moi-même je viens, je
Bien
voudrais que
sûr,
ça bien.
n'acceptable.
Le boucan que je fais en réunion de parents-prof à l'entrée en quatrième de mon fils, où le prof d'histoire jeu nous parle du programme d'histoire jeu et la colonisation, je lève bien la main. Excusez-moi, est-ce que c'est pour leur apprendre la colonisation que c'était un bien fait pour l'Afrique ou pas? Moi, je veux juste savoir. Hein. Et je veux m'assurer que vous êtes au courant de ce que moi j'ai bien expliqué à mon enfant ce que c'est. Donc, c'est pas la peine de mal le noter quand il va arriver avec des théories différentes des vôtres. Ah oui, madame, comment je dis? Mais par exemple, que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Ça, c'est pas la colonisation, c'est autre chose.
Bien
Mais
sûr.
l'Amérique existait. OK? D'accord? Et le prof qui me regarde, genre, oula! Mais après, je suis un parent d'élève plutôt pisse. Hein. Et puis, le troisième, ce serait plus sur les vacances au pays. Donc, une
OK.
BD où on voit comment on quitte Paris pour aller en vacances au pays. Et pareil, je m'inspirerais de quand on allait dans mon village, quand les aînés étaient plus petits, et qu'on allait chercher de l'eau à la source. Donc, mon deuxième avait 5 ans. Et lui voulait venir, et il y a tous les gens du village, en fait, on va chercher l'eau, et il y a des petits enfants qui ont 7-8 ans, mais ils te portent des seaux de 50 kilos, machin. Moi, je dis non, pardon, donnez-moi le seau de 30 litres, parce que j'ai plus trop l'habitude. Et mon fils voulait trop venir. Du coup, ma grand-tante lui avait donné une petite. C'est des assiettes qui ressemblent à des casseroles avec des paysages dessinés autour, qui ont même des couvercles. Souvent, quand on apporte la nourriture à quelqu'un, on les utilise. Des assiettes un peu creuses, voilà. Et il avait ça, mais il trouvait ça trop génial parce qu'au lever du jour, souvent, il y a de la buée. Et le petit chemin pour aller à la source, les feuilles en fait couvrent le chemin. Et donc il y a une personne devant avec une machette qui coupe un peu les feuilles ou avec un bout de bois. Et lui il était genre, maman c'est trop bien, on dirait Koh-Lanta. Et moi qui étais mort de rire, genre, non chérie c'est pas Koh-Lanta, ouais, j'ai l'eau en fait. Hein. Et quand on revient de la rivière, on se rend compte lui il n'arrive pas à bien tenir le truc et il verse de l'eau partout sur le sol. Du coup tous ceux qui sont derrière se mettent à glisser, ils ont dit toi là,
Glisser, mais
le
oui.
blanc là tu ne viens plus jamais avec nous. Tu ne sers à rien. Mais pour lui, tout était aventure. Il voyait des poules, il courait derrière. Sauf que non, au village, tu cours pas derrière une poule qui a des petits. Elle va t'attaquer.
Elle va t'attaquer, bien sûr, oui.
Littéralement, ou ma grand-mère lui avait donné le nom d'un de ses cousins, quelque chose comme ça, qui est décédé et qui avait deux femmes. Donc l'une
D'accord.
est décédée et l'autre était encore vivante. Une mamie toute vieille à qui manque les dents du devant et tout. Et du coup, quand on arrive, ma grand-mère présente, elle dit, ça, c'est ton
C'était
mari.
son mari.
Et lui, il est genre, ah, quoi, oui, je mets à pleurer. Et tous les gens,
Non.
ah, mon mari, donc au départ, il voulait pas. Mais tous les matins, il lui amène de la bouillie de maïs, des cannes à sucre fraîchement coupées. Il était trop content. Et je le vois revenir une fois avec une longue canne à sucre, genre de 2,5 mètres, là, en train de la tirer derrière lui. Je lui dis, mais toi, tu as vu ça où? C'est ma femme qui a pas les dents, là, elle m'a donné. Et tu aurais vu qu'on est rentré à Libreville, tout l'arrière de
Elle
la
est
voiture,
remontée, ouais.
les moutons, les poules, les canards attachés, les régimes de bananes, les paquets de manioc, les pâtes d'arachide dans les pots. Mais elle avait fait un de ces paquets pour son mari. Son nom du village, c'est Onyanedou. Et il était là à la fenêtre de la voiture. Au revoir, ma femme, à bientôt. C'était trop mignon. Et d'arriver à Libreville, à l'époque, on vivait dans un appartement. Il voulait garder les poules dans l'appart. Je lui dis non, elles peuvent pas, chérie. Et on va les déposer chez tonton Jean-Daniel. Si tu veux les voir, on ira les voir là-bas parce que lui, il a une vraie maison. Oh, tu parles, 2 semaines après, papa Jean-Daniel avait mangé toutes les poules.
Bah oui, bah,
Toutes les poules.
m'étonne.
Et il m'a dit, comme on avait ramené aussi un cochon, il m'a dit, c'est le cochon qui a mangé les poules. Je l'ai regardé, genre, ouais, c'est ça. 4-5 poules mangées par un cochon, ça n'a pas de sens. Surtout que le cochon lui-même a disparu. Il me dit, oui, non, j'ai dû le tuer. Parce que
Bah
vraiment, il
lui, il veut
était.
qu'il a mangé les poules.
Non, mais surtout qu'il était dangereux, il pouvait mordre les gens, il te dit n'importe quoi, un cochon, ça se balade, il bouffe ce qu'il bouffe. Mais c'est ce genre d'épisode que j'ai voulu rechercher dans mon historique avec mes enfants
Dans le livre, oui.
et partager la nécessité d'aller au village, voir les parents qui y sont et de revivre aussi comment on vivait là-bas à l'époque, même si je t'avoue, je faisais mon plein de pommes, de kiri, de machin, et ma grand-mère et sa sœur disaient, ah, les enfants, ne mangent pas ça ici. Du coup, on distribuait à d'autres enfants dans le village, mais elle voulait qu'ils mangent vraiment les trucs Voilà, du village. Par contre, pour l'eau, je... non, ils buvaient l'eau en bouteille parce que je ne vais pas me taper une diarrhée là. Pendant 2-3 jours, les estomacs ne sont pas bien costauds. Moi, je buvais l'eau de la source que j'ai grandi dedans. Mais eux, non. Et ils ont adoré. Et ce que j'aimais le plus, c'est quand ils rentraient avec des chics aux pieds, des blessures. C'était hardcore. Ouais, on était bien de village.
C'est Koh-Lanta.
Koh-Lanta. Donc, la BD 2 ou 3, ce sera ça. L'autre, ce sera sur la rentrée. Et puis, les autres tomes, j'ai déjà aussi plein d'idées en tête. Et je pense que je m'arrêterai vers le sixième quand Mimine, qui est donc le petit nom qu'on a donné à ma fille, va passer le bac ou un truc comme ça.
Ok. Très clair. Top. Bah, en tout cas, moi, je suis hyper impressionné par, du coup, tous les gros projets, qui vont arriver, et puis, bon, pour le livre, c'est un peu déjà pour ça que je t'invite à chercher Chosier Mentor, mm-hmm. pour, inviter tout le monde à aller le voir, à aller l'acheter, à soutenir. C'est un super projet de raconter comme ça une vie de mère. Avec ses quatre enfants, une mère professionnelle qui travaille et qui s'occupe de ses enfants, et ses mamans qui commandent. Et comme tu me disais ce matin, ça montre que c'est pas parce qu'on est hors d'Afrique que...
on doit changer notre manière d'être.
Exactement. Mmh.
Et puis surtout, en fait, la vérité, c'est que dans nos familles, j'ai quelques papas qui se sont vexés. Je dis, ça veut pas dire que c'est maman qui commande de papa à la place de papa ou autre chose. C'est maman qui commande les enfants. C'est-à-dire, entre les enfants et maman, ça ne se discute pas. Et je me souviens, quand on venait d'arriver ici, que mes enfants regardaient Pascal le grand frère, ils disaient, maman, mais pourquoi? Ils se disaient, mais celui-là, on lui a dévissé la tête, d'où on vient, en fait. Bernani. C'est même si Bernani, les enfants sont plus petits, mais ils font de ces choses. Je vois mes enfants glousser, genre,
Ici
ou ailleurs, m'en fiche. Et d'ailleurs, on pourra voir dans la BD comment, des fois, quand j'ai vu des enfants qui sont pas les miens en train de faire les foufous comme ça, j'interviens. J'interviens bien même au supermarché devant les gens, à la caisse, je m'en fiche. Et mes enfants qui sont en mode, si l'enfant là ne se calme pas, comment ma mère va lui tomber dessus et maman lui tombe dessus. Parce que c'est aussi comme ça chez nous. On n'attendait pas seulement que nos parents soient là pour nous dire qu'on a mal fait la voisine, la tata, le machin. Tout le monde nous disait, et on ne dit pas, je vais dire à ta mère. Non! Ouais. La personne t'a même bien corrigé là s'il faut, et que quand ta mère va venir, va te rajouter. Donc mieux, tu ne dis rien. Mais ce que je voulais aussi mettre en avant, c'est le fait que dans la BD, on n'a pas toujours des personnages centraux noirs, qui sont des femmes et des mamans, avec un afro. Tom Tom et Nana étaient une grande inspiration, mais c'était les personnages centraux. Leurs parents, on les voyait un peu ou souvent de loin. Ou quand tu regardes les Disney, les parents voient que le bas, les jambes jusqu'au genou à peu près. Ouais. On voit pas le haut du corps. Quand tu regardes Franklin, la tortue, des fois on voit les parents de Franklin, mais ils pilotent des avions, les six compagnons, ils font des aventures à gauche et à droite. Moi, quand je lisais ça à 10, 12, 14 ans, je dis, mon Dieu, leurs parents sont où? Ou genre, ouais, la nuit tombe bas, je vous dis, nous, on a un repère quand le soleil se couche, ça veut dire qu'il faut être en train de te laver et te mettre en pyjama. Donc, tu n'es pas encore lavé, tu es où? Dans le village de Marne, la ville de la Fuette, en train de faire des aventures. Mais tu es mort, mon pauvre. Donc, je lisais ça avec toujours cette question en tête, mais où sont leurs parents? Mais où est leur maman? Où est sa maman? Sa maman va se fâcher, sa maman aussi. Et donc, je voulais mettre une maman au cœur de l'histoire, une maman noire, une maman africaine, une maman aimante, parce qu'on a tendance à croire qu'on n'est que des femmes colériques, machin. On est très aimante. On aime un peu comme ma mère, je le disais tout à l'heure, some tough love. On aime avec des principes. L'enfant, si on l'aime plus que tout, il est paroi, en fait.
T'as eu beaucoup de retours de femmes ou pas?
Ah oui, jusque-là, le seul retour négatif que j'ai eu, c'est quelqu'un m'avait dit que j'avais oublié la pagination. J'étais trop contente! Non, j'ai dit à ma graphiste, et on l'a corrigé, donc sur le deuxième tirage, on a mis les numéros de page. Elle me disait, pour mes enfants, ça permet de savoir sur quelle page ils se sont arrêtés. Je dis, oh, si c'est que ça. Mais vraiment, sans prétention, c'est un très beau produit qui est très authentique. Il y en a qui l'ont acheté pour leur maman. Il y en a qui l'ont acheté pour elles-mêmes, les enfants sont venus prendre. Il y en a qui l'ont acheté pour les enfants, elles-mêmes, elles ont dévoré. J'ai eu des enfants ici en France, au Canada, aux États-Unis, en Australie. Évidemment en Afrique, les mamans envoient des photos, des vidéos, même des bébés qui sont en train de faire semblant de rire, gla glou gli, comme s'ils lisaient le livre et bien à l'envers. Ça me touche tellement. Et puis, ce qui revient le plus, c'est quand elles me disent, mes enfants disent, maman, on dirait toi. Et je me rends compte
D'accord.
qu'on a ça en
En
commun.
lisant, ils reconnaissent
Leur
leur
maman,
mère dans...
les expressions. Ou alors, certains enfants se reconnaissent eux. Il y a des filles qui se reconnaissent en ma fille, des garçons qui se reconnaissent en Papou, qui est
Des
donc le petit
garçons,
nom
ouais.
de mon fils. Parce que j'ai illustré que mes deux plus jeunes enfants. Et le seul
D'accord.
autre personnage en plus, c'est notre chien,
D'accord.
qui s'appelle Chelsea, mais on l'appelle Chelsea Africa parce qu'on lui a donné un nom de chaque pays d'Afrique. Je ne peux pas te les citer tous. Il faut que je regarde dans mes notes. Mais je sais qu'au Sénégal, elle s'appelle Tal. En Côte d'Ivoire, elle s'appelle Kwame. Elle s'appelle Montero à Sao Tomé. Elle s'appelle Mbadinga au Congo. Au Gabon, Massamba au Congo. Ngobidjek au Cameroun. Et elle répond quand on dit Badinga. Elle répond quand on dit Chelsea. Pour les autres, non. Des fois, elle va regarder,
Un
genre,
peu dur.
tu parles à qui comme ça? Et puis, c'est pas évident pour un chien de se voir appeler. Mais c'est un personnage aussi que je voulais vraiment intégrer à l'histoire parce que ce chien est arrivé dans notre vie grâce à ma communauté Instagram. Depuis
Okay.
des années, ma fille me demandait un chihuahua, je disais non. Et puis, quand on était en vacances à Londres, elle m'a dit, oui, maman, je vais vendre des limonades comme ça, je vais gagner assez d'argent pour mon chihuahua. J'ai dit, chiche! Et elle était là sous le soleil en plein mois de juillet. Would you like a lemonade, please? Et je voyais les gens mettre des bancs à ma fille depuis la fenêtre, j'avais mal au cœur. Et puis ma sœur, son mari et moi, on lui a acheté ses premières limonades. Et puis on a vu la première personne acheter une limonade, la deuxième, la troisième, un pound, machin. Et en tout, en une semaine, elle a gagné 240 pounds. Et je faisais des stories Instagram et mes abonnés disaient, oh non, soutiens la petite, je vais lui faire un PayPal de 10 euros, de 50 euros. Et c'est comme ça, en fait. Moi, je lui avais dit, si tu gagnes la moitié du prix du chihuahua, donc on m'avait
Voilà,
dit,
je
pour
suis tout.
800 euros, je peux en avoir. Elle n'a pas eu 400. Elle a pu avoir 240 pounds. Instagram a complété, maman a complété le reste. Et donc, ce chien n'est pas que le nôtre. Il est celui de toute cette communauté. Et je sais qu'il y en a qui m'auraient dit, pourquoi Chelsea
Dans
n'est pas dans la
le...
BD? Et elle est un peu partout dans la BD, même si elle dit jamais rien, on essaie d'imaginer ce qu'elle pourrait dire.
Chena, c'est super intéressant de t'écouter. On a explosé mon temps dans un monde d'épisodes, mais c'est pas grave. On va quand même devoir
Wrap up?
s'acheminer tranquillement vers la fin de l'épisode et on continuera cette discussion tranquillement autour d'un bon tiep un
Avec
jour.
grand plaisir. Mais comment on n'y voit rien, on m'invite à manger un tiep? Comment c'est possible ça?
Ah ouais, c'est vrai que bah non, on va commencer par la loco avec le poulet braisé alors que
Non,
bon.
trop facile. Moi, j'ai envie de manger le gnangnan, c'est ça? La sauce gnangnan?
Ah, ça c'est dur pour moi. On va en parler avec Audrey pour voir ce qu'elle
Non,
en dit,
parce que hier, ouais, c'était
mais.
hier, je me suis mise à manger des boules de gnangnan creux. J'ai fait manger à ma fille également. Et les gens sont venus dans les DM en m'expliquant, mais on en fait une
C'est
sauce,
un
mais
peu
tu peux.
amer ça,
C'est
non?
très amer, mon Dieu. C'est très bon pour la santé, apparemment.
Ouais, tu
Et que
sembles.
tu peux les cuisiner comme ci, comme ça. Donc, je suis allée... Et quelqu'un m'a même dit que c'était le plat préféré du président Houphouët. J'ai dit, ah ben voilà! Il
D'accord,
faut que je mange
ok.
la sauce gnangnan. J'ai trouvé une
Ouais,
recette
moi je.
YouTube. Je pense que je vais essayer de la faire ce week-end avec ma fille. Mais je
Mais
sens
c'est
que ça va être
amer,
foiré. Ouais,
Chena.
ouais, ouais.
Bah
J'espère. Non, mais je mange tout ce que tu m'offriras avec Audrey avec grand plaisir.
Avec plaisir, ça marche. Chena, si tu avais un super pouvoir que tu pouvais régler un gros problème dans le monde, là, ce serait quoi?
La faim dans le monde, ça a l'air
Ouais.
simple comme ça, mais il y a des gens qui ont encore faim.
Bien sûr.
Et je ne vais pas faire ma minute Jacou le croquant, mais moi, je suis le genre de personne, si je ne mange pas, je suis déjà désespérée, fatiguée et tout. Et pendant une année de ma vie, c'est des choses dont je ne parle pas beaucoup, dont je parlerai certainement dans ce livre dédié à ma mère. Pendant un an, elle m'a laissé chez un de ses oncles, et sa femme était vraiment la marâtre de Cendrillon. Elle me laissait les midis sans manger. Donc, enfant, j'ai connu cette sensation terrible qui donne le vertige, etc. Quelques mois, hein, le temps que ma mère vienne me prendre, et j'ai jamais pu trahir ce qui s'était passé. Mais la faim, le fait que des enfants aient faim dans le monde encore aujourd'hui, ou même des personnes adultes, me chagrine énormément. Ce serait ça, qu'on soit tous rassasiés. Pas forcément la panse bien pleine, parce qu'après on est trop fatigué, mais la
Bien
faim dans le
sûr.
monde, ce serait pas mal.
Et tu as parlé tout à l'heure de tes yaya et des tatas. Si, est-ce que tu as des mentors? Est-ce que tu as des personnes que tu regardes un peu de loin ou de près d'ailleurs, hein,
Alors.
qui t'inspirent, de qui tu as envie de parler?
Ça va sembler prétentieux, arrogant de ma part, mais la femme que j'admire le plus au monde, c'est moi-même. des fois, les gens me le
Ah
reprochent. Je dis, ah,
bah.
ça, c'est vous, hein. Moi, j'ai pas à m'excuser,
Ça, c'est
mais je
votre problème.
connais mon parcours, je connais mon
Ouais.
histoire, je connais les combats que j'ai menés, ce que j'ai perdu, que j'ai gagné. J'ai énormément de respect et d'admiration pour moi-même. Et des fois, je regarde mes fils en me disant, si vous venez me dire un jour Oprah Winfrey, hein, vous-même là-bas, mais ou Michelle Obama. Mais je sais qu'un jour, mon dernier m'avait dit, maman, tu sais, les cinq choses que j'aime le plus au monde, c'est Dieu, Nike, mes claquettes, le poulet et toi, mais pas forcément dans ce ordre, donc ne te vexe pas.
Ouais.
non, son téléphone, pardon, et ses claquettes Nike. Voilà, claquettes et Nike allaient ensemble. Et son iPhone, ça, c'était chose indispensable. Et ça m'a énormément touchée que mon fils, et tous, je sais que, voilà, ils ont énormément d'amour, d'affection pour moi, mais... je pense que si on apprenait à se célébrer soi-même aussi, on n'attendrait pas que le monde le fasse et on n'a pas besoin d'avoir un Nobel de la paix ou autre chose. Après, sans la moindre hésitation, ma mère, mes tantes, comme tu as pu le sentir, ma grand-mère, c'est des femmes dont la vie a été pas toujours facile, mais je les ai vues se battre comme ça, certaines seules. Ma grand-mère était veuve, ma mère n'avait que 6 ans. Donc ma mère a grandi sans son père. Et j'ai grandi dans une famille où les femmes se supportent, se soutiennent. Elles font un effet de chaîne comme ça et on se tient. On n'est jamais seul, au bangam, on se tient, tu peux pas tomber, on te soulève tout de suite. Tu veux pleurer, ok, pleure vite, après tu te lèves, voilà, en kokominga, tu te lèves et puis tu avances. Les femmes de chez moi, les femmes de ma famille, et toutes les femmes qui ne se laissent pas piétiner, qui baissent pas les bras, et surtout, qui ne poignardent pas les autres dans le dos, qui ne se laissent pas impressionner par les autres femmes et continuent de voir leur propre valeur. Et les hommes, évidemment, j'ai énormément d'admiration pour les hommes, surtout quand ils se rangent de notre côté, quand ils ne se sentent pas émasculés ou castrés parce qu'une femme en impose. Les hommes qui élèvent leurs filles comme des hommes et leurs fils comme des femmes. Toutes les personnes qui font des choses bien ont mon admiration. Mais je me mets quand même en pole position parce que charité bien ordonnée commence par soi-même.
T'as raison. Et ce que ton parcours tel que tu me l'as expliqué aujourd'hui, et mm-hmm. ce qu'on avait déjà vu, hyper inspirant. Et puis on le voit tous, hein, tu fais partie du support système de beaucoup de personnes. J'ai vu comment, quand Steve avait sorti son livre, pris les devants pour pousser, Karel sort des vidéos, on voit tout ce que tu fais, comment tu es supportive en plus de ce que tu fais pour toi-même. Donc oui, tu as totalement le droit et tu as raison.
Et c'est le fameux principe d'Obangam, hein, si on ne se soutient pas les uns les autres, qui le fera pour nous, personne.
Ouais. Et dernière question, est-ce que, je demande toujours une référence culturelle, mm-hmm. donc forcément, c'est maman qui commande en premier. Mmh. Mais si t'as d'autres références culturelles, livres, séries, films, ce que tu veux, qui nous permettent de garder un lien avec toi en me disant, en regardant ça, allez, c'est Chinay qui nous l'a conseillé.
Si on restait dans la BD, chose. Évidemment, tous les Akissi et Aya de Pougon de Marguerite Aboué, ouais. qui a vraiment été ouais. ma grande, grande source d'inspiration et que j'espère avoir le plaisir de rencontrer un jour et lui offrir, parce qu'on a tous ses livres, tous les DVD de Aya. Enfin, il y a un seul film, mais on en a deux DVD, c'est pour te dire. Au cas où, hein, rayer autre chose. On l'a regardé sur Netflix un nombre incalculable de fois. Mes enfants sont fans. Ma fille adore Akissi. Marguerite Aboué, je suis restée vraiment dans la BD. Et un livre que je lis et relis beaucoup, L'Alchimiste de Paulo Coelho, il m'a été offert par un ami qui est décédé aujourd'hui. Et si je devais revenir à quelque chose d'un peu plus... pas forcément plus contemporain, mais Americana, de Chimamanda Ngozi. Je l'ai lu de bout en bout avec l'impression de l'avoir écrit et vécu une partie des choses. Les États-Unis, bon, c'est une autre ville. Moi, j'étais à New York, mais beaucoup de choses en commun, beaucoup d'épisodes, même celui avec le pervers sexuel. Je ne suis pas tombée sur un pervers sexuel dans le même sens, mais dans la rue, oui, il y a des hommes, quand j'étais étudiante, 18-19 ans, ils sont avec toi à l'arrêt de bus, et puis ils font semblant d'être gentils, et puis quand la personne, ils te montrent le zizi. Enfin, c'était juste des trucs, je dis, mais c'est quoi ces histoires? Et j'en parlais pas en rentrant au pays, parce que ma mère m'aurait dit, voilà, tu pars plus jamais, ces pays de fous, là. Ouais. Mais j'ai lu ce livre avec le sentiment de l'avoir écrit, je me suis dit, je suis connectée à Tata Chimamanda d'une manière ou d'une autre. Je recommande à toutes les filles et les filles, notamment de la diaspora, de le lire. C'est une pépite en termes d'écriture, que de choses. Ma maison est bondée de livres, mais cela, c'est déjà pas mal. Je pense que l'alchimiste arrivera en première position parce que je le lis et relis, et à chaque lecture, j'en apprends quelque chose de différent.
J'ai lu les deux, hein, donc I can relate. Et Chimamanda, je l'ai lu aussi, donc c'est pas que pour les femmes. Et ça m'a parlé aussi parce que, j'ai pas forcément vécu les mêmes choses que
le personnage.
J'oublie sûrement que le personnage, oui. Mais ça te permet de voyager avec elle, d'être dans cette salle dans ce salon de coiffure, d'être dans cette relation.
Dès le début, avec son ex, ouais. L'épouse au pays, ouais. La tradition, la culture, ouais. La famille, l'écart de mentalité.
Sa tante qui sort avec le général qui finit par décéder et qui se fait tout dépouiller. Enfin, ouais, c'est
Voilà, c'est les gens qui doivent reprendre les études sur le tard, le deuil, ouais. c'est une merveille d'écriture. C'est tellement, tellement bien écrit. Et quand on se met dessus, il vaut mieux pas avoir de programme. Hein. Moi, il ne faut même pas m'appeler. Je suis en train de finir. Et j'ai commencé à lire les Chimamanda que cette année. Je suis allée à la FNAC, j'ai ramassé tout ce qu'il y avait. Là, je crois que j'en ai lu trois. Je crois qu'il y a le collier noir ou machin que je suis en train de lire en ce moment. Et puis le tout premier, le manifeste du féminisme, là. Et voilà, que j'ai forcé mes enfants à le lire. Et mon dernier fils, énervé, me disait « Ouais, tu vois, vraiment, je vais écrire un livre sur le parentisme. » Il dit « C'est quoi le parentisme ?» Il dit « Les parents qui veulent forcer les enfants à lire des choses qu'ils veulent pas lire. » J'ai dit « Ah, voilà, bah, tu vas lire et tu vas apprendre ce que ta fille, tu veux pour ta fille et pour ta sœur les mêmes choses que tu veux pour toi. C'est tout. » En gros, hein, si je le résumais comme ça.
C'est clair. Merci beaucoup, Shina.
Merci à toi, Malik.
Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux nous dire un dernier quelque chose?
Écoutez, vous pouvez retrouver ce moment qui commande à la FNAC sur le site de la FNAC.com, dans une sélection de FNAC en Ile-de-France. Si vous êtes à Abidjan, chez Couleur Concept et Ayana Magazine. À Dakar, chez Arca Concept et puis à la librairie Les 80. Et puis sur mon site www.shina.com, S-C-H-E-E-N-A. J'espère qu'il sera au pied de vos sapins, dans les mains de vos enfants, vos petits frères, vos neveux, nièces et même de vos parents. Je suis primo-auteur en auto-édition. C'est une nouvelle aventure pour moi. J'espère avoir l'occasion de raconter d'autres histoires qui célèbrent nos cultures, nos mamans, nos enfants, qui nous sommes. Et j'espère que voilà, vous répondrez nombreux à cet appel de phare bien, 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 bien gros.
On sera là pour le pousser.
Merci beaucoup.
Tu l'as fait en auto-édition, c'est un choix ou c'est...
Oui, j'en ai discuté avec Steve et d'autres personnes qui m'expliquaient un peu les conditions dans les maisons. Mais comme moi, pourquoi faire simple quand je peux faire compliqué? Je me suis dit, voilà, allons-y seul. Et ouais, ça a douillé. Là, je suis allée prendre, par contre, dans mes économies, dans mon épargne. Et Dieu merci, pour le moment, en fait, c'était de manière purement organique. C'était que ma communauté Instagram avec laquelle j'ai communiqué. Je suis pas allée sur Facebook, je suis pas allée sur Twitter, où j'ai aussi également très présente. J'avais pas fait de médias jusque-là. Ce n'est que là, depuis début novembre, donc on a commencé les interviews dans les médias, les podcasts, etc. Et je vais voir comment eux réagissent. Donc là, c'est plus mes abonnés qui m'aiment bien. Donc si quelqu'un n'aime pas, il va bien dézinguer et me dire. Et j'ai hâte d'avoir le retour de ce public qui me connaît peut-être moins, qui est un peu moins attaché, qui a moins un sentiment d'appartenance à quelque chose de commun. Vont-ils adhérer au message? J'espère sincèrement, parce que, encore une fois, c'est un très, très beau produit.
Bien sûr. Bah, merci beaucoup. En tout cas, moi, je remercie Lisa encore, hein, qui du coup, a assuré la mise en relation pour le podcast. Merci beaucoup, Shina.
Merci, Malik. À bientôt pour la loco poulet braisé. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde.
Carrément, ça vient très vite. Salut.